Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, bien sûr, d'abord. Moi, j'essaie de faire une bonne émission, bien sûr. C'est mon but premier. Alors, il est 7 heures du matin. Bon, évidemment, on préférait tous qu'il soit 8 heures du soir. Quels seraient les avantages au fait qu'il serait 8 heures du soir? Ça serait l'heure, par exemple, de l'apéro. On aurait fini notre journée de travail. On serait chez nous. On pourrait se balader pieds nus à la maison. Par exemple, pour ceux qui ont des pieds nus et ceux qui ont une maison. Mais là, c'est bien parce qu'on se réveille. Alors, moi, je vous avoue que je ne me suis pas réveillé. Je vais me réveiller d'ici un quart d'heure. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Alors, le vous est vague, bien sûr, parce que c'est comme les gens qui sont fous dans les métiers des médias, du show business, qui disent « Public, je t'aime, je vous aime ». Moi, je ne sais pas du tout, je ne vous entends pas, vous m'entendez. Donc, on va essayer de réparer cette symétrie. Donc, parlez-moi un petit peu. Voilà, retour à moi. Donc, il y a plein d'invités, il y a des trucs formidables. Il y a Arnaud et Marc qui est là. Qui est en train de... Vous faites quoi, Arnaud, là?
J'hésite à rentrer.
Viens dans le studio. On a Thierry Paret, vous savez, qui est notre camarade qui fait le journal, là, est toujours retenu par la police pour une sombre affaire. Il était payé par Richard Ferrand pour passer l'aspirateur chez lui. Donc, c'est Justine Martin, qui est formidable, qui présente le journal. On a Armel, qui est là, qui est à la fois comédien, animateur, là, qui réalise l'émission, qui a une chemise à carreaux, ce qui n'apporte rien en soi.
Ça apporte peut-être la régularité des traits, et ça peut-être est rassurant.
C'est de la rigueur.
Alors moi, c'est surtout le fait de le dire qui apporte quelque chose, parce que ça crée une intimité. C'est que les gens... dis donc, vous êtes rentré dans mon édito.
Pardon.
ça n'avait pas l'air, mais c'est l'édito. On va parler des tomates aujourd'hui, des théories de conspiration. Non, mais c'est vrai, il y a un type qui a écrit un livre formidable qui s'appelle L'Empire de l'or rouge. Bon, il va venir tout à l'heure. On lui paiera un café. On va parler de plein d'autres choses. Il y a un numéro sur le tennis de Society, hein, qui est un magazine qui est bien. Ils font aussi Sophie, mais ils font plein de choses. Bon, alors là, vous en êtes tous, 7h02. Ceux qui ne sont pas réveillés, bon, bah, évidemment, ils n'entendent pas. Ceux qui sont réveillés supportent à peine leur femme ou leur mari parce qu'ils n'ont pas pris encore leur café. Donc, c'est gentil de nous supporter déjà tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Qu'est-ce que ça veut dire, pouette, pouette, la hurlette, tagada, la queue du rat? Je ne sais pas. Alors si, je le sais, mais je vais vous le dire. Donc c'est notre beau générique, et voici maintenant le journal de Justine Martin, 7h30.
La grève des conducteurs de camions-citernes reconduite aujourd'hui. Le mouvement avait été lancé par la CGT vendredi dernier. La CGT qui réclame une amélioration des conditions de travail pour les transporteurs de matières dangereuses, les carburants, le gaz, les produits chimiques. Une grève qui pénalise surtout l'Île-de-France pour le moment.
Bon bah Arnaud, vous en occupez de ça. Si ce qu'ils réclament, vous leur obtenez.
D'accord, alors
allez,
j'y vais.
Voilà, allez-y maintenant et vous
rappelez j'appelle.
La suite du journal.
Le Premier ministre Édouard Philippe a réaffirmé hier sur France 2 son soutien au ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Richard Ferrand qui est soupçonné de pratiquer depuis 20 ans un mélange des genres entre politique et affaires, intérêts publics et privés. Il a notamment permis à sa compagne d'acquérir un bien immobilier d'une valeur de 580 000 euros financé par les loyers des mutuelles de Bretagne.
Atmen, vous en occupez de ça? Vous arrangez le coup parce qu'il a l'air sympa, Richard Ferrand, vous m'arrangez ça?
Je règle l'affaire.
Vous réglez l'affaire, ok. Oui.
Et lors de cette interview, le Premier ministre a également annoncé le report du projet de loi de moralisation de la vie politique qui devait être initialement proposé avant les législatives.
Bon, bah ça, c'est moi qui m'en occupe.
Je veux bien le faire.
Non, c'est moi ça.
Il reste encore plein de choses à faire. Édouard Balladur, par exemple, qui a été mis en examen en début de semaine dans l'affaire de Karachi. Selon des informations révélées par Le Canard Enchaîné et Le Monde, l'ancien Premier ministre, âgé aujourd'hui de 88 ans, est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 95 avec l'argent des rétro-commissions sur des contrats d'armement. Édouard Balladur a demandé à ses avocats de contester cette décision devant la Cour de cassation.
Bon, si vous êtes dans des histoires d'armement avec des rétro-commissions, arrêtez. Je le dis aux auditeurs et puis après, il faut juste arrêter.
Dans l'actualité internationale, un test d'interception de missiles face à la Corée du Nord réussit pour les États-Unis. L'agence américaine de lutte anti-missiles a testé hier avec succès l'interception d'un missile balistique intercontinental.
Pardon. Je vous laisse. J'imagine des gens qui sont là. Alors, à moi de faire un missile, à toi. Ben, ça les occupe. Hein. Les Coréens du Nord, les Américains, comme ça, ils s'occupent.
Le missile a été tiré.
J'aurais des petits commentaires très cons sur chaque info. Jusqu'à ce que vous passiez sur Europe 1, RTL ou France Inter.
Le missile avait été tiré depuis une base américaine de l'US Air Force en Californie, sans charge nucléaire. Un message fort pour Pyongyang qui cherche à se doter de cette arme nucléaire de longue portée. Les États-Unis ont commencé à livrer des armes aux combattants kurdes en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense hier. En dépit de la Turquie, le président américain Donald Trump avait décidé au début mai d'armer les milices kurdes, le YPG, les unités de protection du peuple kurde, des milices affiliées selon le gouvernement turc au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan classé terroriste par Ankara.
Je pense, Justine, que vous devez, il faut que vous soyez plus agressive sur l'info, plus dans, faites-nous croire qu'il y a un suspense fou.
Oui, mais les gens se réveillent, donc c'est bien d'être.
Non, soyez au contraire, soyez d'une agressivité totale.
Martelez les gens.
Martelez.
Sinon, ils seront jamais traumatisés.
Bien sûr.
Donc le parti conservateur britannique en difficulté pour les prochaines élections législatives. Selon une enquête de l'Institut YouGov publiée hier dans The Times, la première ministre Theresa May risque de perdre la majorité absolue à la Chambre des communes à l'issue des élections législatives du 8 juin prochain. C'est assez agressif, là.
Non, parce que vous finissez vos phrases par le bas. Il ne faut pas interpréter les points. Faites d'accord. Comme si tout était en point de suspension. Ta-da-na-na-na-na-na, ta-da-na, tac-tac-tac. Là vous, il faut enlever la ponctuation.
D'accord. Alors, Uber a fini par licencier hier son vice-président Anthony Lewandowski, qui était accusé d'avoir volé des secrets sur la Google Car, la voiture autonome. Anthony Lewandowski était ingénieur chez Google et avait quitté l'entreprise américaine pour fonder sa propre start-up en portant avec lui des données techniques. Otto avait ensuite été racheté par Uber.
Je me rappelle très bien Anthony, qui était un type épatant, un collègue en or. C'était vraiment le type toujours prêt à dépanner à la machine à café, toujours le premier à offrir son petit crème, ou même, vous savez, la soupe que personne ne prend,
la
soupe poireau ou la soupe tomate dégueulasse, lyophilisée, un type en or.
Mimé, un juge américain avait
ordonné... Mimé, c'est pas un nom ou un petit surnom, hein. Ça veut dire au milieu du mois de mai. C'est pas comme Mimolette, quoi.
Vers le 15 mai, un juge américain avait ordonné à Lewandowski de restituer à Google les dossiers confidentiels.
Eh oh ! Restitue à Google les dossiers confidentiels !
Mais celui-ci avait refusé de coopérer. Et...
Est-ce que j'ai... Alors, Justine Martin finit... Alors... Alors, Justine Martin, à l'école, on dit « Martin, Justine !» parce qu'on l'appelait à l'envers, elle en avait marre. Et les autres copains disent « Ah, c'est un garçon !» Elle s'appelle Martin, Justine. Disait, même pas vrai. Vous verrez plus tard, je présenterai le journal dans Plus près de toi.
Et je vais finir par la météo, puisque c'est un peu votre moment préféré aussi.
C'est-à-dire, moi, je suis une plante verte. Il faut un peu m'arroser l'été et me réchauffer l'hiver.
Ça tombe bien, parce que ce sera plutôt orageux et nuageux sur l'ensemble du pays aujourd'hui. Les températures minimales vont de 10 à 16 degrés du nord au sud. Et les maximales varient entre 20 et 24 degrés près de la Manche et du Massif central aux Pyrénées.
Bonjour l'oiseau.
Bonjour.
Viens te poser sur la branche. Tu sais parler humain ?
Un peu, je parle un peu.
Attends,
humain.
Attends, je finis les sifflements avant de faire la voix de l'oiseau. Viens te poser. Maintenant, parle avec une voix humaine. Maintenant, vous faites la voix humaine.
Ah.
Il n'est pas préparé, ce sketch.
Il est préparé. J'ai écrit ça hier.
Parce que je voulais faire croire à l'auditeur qu'un petit oiseau s'était posé sur l'épaule de Justine.
C'est bon, je suis un oiseau ?
Non, pour le moment, il siffle encore. Justine, pourquoi les hommes sont devenus fous ?
Comment fais-tu pour être aussi belle ?
Alors, c'était bien, vous êtes contente ou pas ?
Très.
Bon, alors nous aussi,
parce
que vous avez donné le petit plus, c'est-à-dire qu'on est informé ce matin. On ne va pas partir en disant « Ouais, je sais rien de ce qui se passe, je m'en fous ». Non, là, je peux vous dire que je me sens citoyen.
C'est l'info plus, l'info avec à la fois des informations et de l'émotion. Et de la chaleur.
Oui, parce que c'était incarné par quelqu'un.
Ouais.
La formation, au lieu d'être simplement une machine qui avance, comme ça, comme un rouleau compresseur, Justine l'a incarné.
On était avec elle, on était comme en famille, comme si
comme
on mangeait ensemble.
Une potée. Une potée auvergnate.
Une potée auvergnate et d'information.
Une potée d'information auvergnate. D'information auvergnate.
D'information d'Auvergne.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ?
On continue comme ça jusqu'à 9h, je pense que c'est bien.
9h, pourquoi 9h ? Justine, allez préparer le journal de 7h30. Bon, alors à tout de suite. Elle est bien votre petite musique, vous m'avez fait écouter pendant le morceau là. Bonjour les enfants.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ça va bien.
Vous voulez un tour de manège?
Ah oui.
Mais papa, il faut que demande à ta maman des sous.
Maman, est-ce que tu pourrais nous donner quelques...
Non. Est-ce que ton père?
Non. Alors elle t'a donné des sous, ta mère?
Non.
Eh ben pas de manège.
Foutu une claque.
Fous-moi le camp, sale pauvre. Je veux des enfants riches sur mon manège.
Ah, dommage. À la prochaine fois, les enfants.
À la prochaine fois pour la suite du feuilleton. Dis donc. Alors mettez les connoisseurs là. Quelle étrange déformation du cerveau nous fait aimer l'actualité plutôt que le passé ou l'avenir. Quel est ce goût du présent? Les connoisseurs nous en disent plus. Avec aujourd'hui, Marie Misset dans le rôle principal de la connoisseuse qui court un moment dans une robe blanche dans la prairie avec son amie Thèse d'Imberville. Mm-hmm. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, elle m'a dit pendant la journée, j'ai un truc, mais c'est d'hier. Mais hier ça, si c'est très, c'est une info très forte, elle se prolonge aujourd'hui.
Et puis c'est une info forte qui est dans la durée. Donc ça va.
C'est dans la durée.
C'est dans la durée.
Vous-même, vous inscrivez dans la durée.
Je m'inscris dans la durée.
Vous m'avez dit, je ne suis pas de celle qu'on aime, je suis de celle dont on se souvient.
Donc on retient.
Oui. Ouais, bah vous serez les deux.
Mais si c'est l'info d'hier, on peut reparler de maths.
Moi, si c'est pour entendre la même qualité toute la journée, monologuer, être là, prendre le crachoir. Écoutez, Atmen, je vous jure, moi j'ai énormément d'affection et d'admiration pour vous, mais là, on n'entend que vous, là, ce matin. Vous n'êtes pas partageur avec les camarades. Vous voyez?
Un petit peu, peut-être.
Donnez-en, passez la balle. Et
est-ce
ça, je
pourrais juste dire quelque chose à un moment?
Rien que la question, c'est déjà une prise de temps de parole sur la. Alors, Marie, quelle est cette information?
Cette information, c'est sur des jeunes filles en Israël qui refusent de faire leur service militaire. Alors, du coup, elles font de la prison. Il y avait un portrait de 3 jeunes filles entre 19 et 21 ans pour qui c'est pas une décision facile parce que le service militaire en Israël, c'est aussi un gros truc social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le fait pas, on manque à une sorte de rituel.
Parce que c'est 3 ans. Ou deux
c'est
ans,
trois ans, trois ans, et oui. Puis on est mixé avec l'ensemble de la population israélienne, on se fait énormément de contacts, on en a besoin pour travailler ensuite. Souvent, les gens qui n'ont pas fait leur service militaire, on ne les accepte pas dans des jobs plus tard. Et puis voilà, c'est aussi manquer quelque chose finalement qui fonde un peu la jeunesse israélienne. En tout cas, c'est une sorte de rituel par lequel elle passe. Bon, voilà, ces 3 jeunes filles qui étaient hier en portrait dans Le Monde, elles décident par conviction de ne pas faire leur service militaire. Elles ne sont pas pour autant pas attachées à Israël, au contraire. Elles se disent sionistes, mais elles disent ça ne passe pas forcément par le fait de
faire l'armée,
dur,
oui.
En fait, de faire l'armée, voilà, de se montrer dur avec les Palestiniens, etc. Et alors, c'est intéressant parce que, par exemple, il y en a une d'entre elles qui raconte qu'en prison, les autres filles avec qui elles étaient, c'est des filles qui avaient arrêté leur service militaire pour subvenir aux besoins de leur famille, parce que voilà, c'est des jeunes filles pauvres et donc elles ont arrêté pour travailler. Et qu'ils la regardaient un peu bizarrement comme une espèce de hippie qui, en fait, elle, a le luxe de pouvoir avoir des convictions là où elles le font vraiment par nécessité. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant cette histoire de elles le font aussi parce qu'elles ont le luxe de pouvoir le faire.
Oui, mais c'est pas grave, enfin, on a le droit d'avoir le luxe.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'elles n'ont pas cette nécessité-là. C'est quand même intéressant de savoir que pour se battre, il faut aussi avoir un certain bagage derrière.
Bien sûr.
Mais ils font combien de d'années de prison pour ne pas faire la.
Alors, il y en a une qui a fait 5 mois. Alors, c'est pas.
C'est une sorte de statut d'objecteur de conscience un peu particulier. Vous avez le droit de ne pas porter les armes et vous faites un autre type de service. Ce qui traumatise beaucoup les jeunes qui font l'armée israélienne, c'est quand ils sont mis sur les checkpoints entre Israël et les territoires et Gaza et Ramallah. Parce que tout à coup, ils voient des choses, ils voient un type de comportement entre beaucoup de membres de l'armée et les populations de ces deux territoires palestiniens. Merci, Marie Misset.
Merci, monsieur Trémolin.
Non, je ne m'appelais pas par
Jacques
des noms.
Trémolin, sont... oui, Jacques Trémolin, j'ai oublié.
Qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de l'actualité?
C'est la sonde Juno qui est autour de...
Attends, articulez, mon vieux. La sonde
c'est
quoi?
C'est la sonde Juno.
Ah voilà, comme
Juno,
le... Voilà.
Qui est autour de Jupiter, qui s'enfonce vers... elle est actuellement vers l'hémisphère sud et capte des tempêtes et des bourrasques. Et c'est vraiment excellent de voir ces images. Je ne sais pas si on voit à la radio.
Oui.
Ces images de Jupiter tourmenté, Jupiter déchiré, Jupiter laissé en flammes, gazeuse.
Jupiter libéré, oui. Jupiter, c'est une planète ou c'est une étoile? C'est une planète?
C'est une planète, oui. C'est la plus grosse planète du système solaire. Et c'est celle qui fait contrepoids par rapport au Soleil.
Ah bon?
Oui. Elle envoie sur nous un peu des forces des marées qui tiennent le système solaire.
Et pourquoi on pourra vivre sur Jupiter un jour?
Enfin, moi, c'est non, difficile, mais c'est... Non, sauf si vous êtes une créature gazeuse, vous pouvez, parce qu'elle est très gazeuse. Mais on ne sait pas trop, je ne sais pas si ça, parce que je n'ai pas bien lu l'article, mais on ne sait pas encore trop si elle est liquide et solide au fond. Pour l'instant, on voit une pellicule de gaz.
On ne sait pas si on peut s'asseoir dessus ou si c'est juste un amas de gaz.
On peut s'asseoir dessus parce qu'on est dans la pesanteur, donc on peut s'asseoir sur du gaz en apesanteur, mais est-ce qu'on peut s'asseoir, est-ce qu'on veut nager à l'intérieur de Jupiter?
On ne sait pas de quelle matière, on ne sait pas ce qu'il y a sous le gaz.
C'est ça, on sait que c'est quelque chose...
Alors Atman sait, mais il a la courtoisie de ne pas le divulguer.
Oui.
Enfin,
et donc, alors qu'est-ce que vous aimez bien, vous, comme planète, Arnaud?
J'aime bien Jupiter parce qu'elle a quand même pas mal de satellites qui sont des planètes qui sont pas aussi grosses que la planète Terre. Et vraiment des très belles planètes comme Europe, par exemple.
Europe?
Ouais.
Oui.
Io.
Et on en est où avec Mars, d'ailleurs, la planète rouge? Là, on se rapproche un peu, on a des nouvelles images?
Oui, quelques images qui arrivent de temps en temps. Mais
C'est vos sujets, ça? Vous aimez bien?
En fait, ce que j'aime bien, je reviens à Jupiter, ce qui est fou, c'est qu'il y en a une qui a... Alors, je crois que c'est Europe ou Io, je sais plus. Qui a une pellicule, enfin, je sais, c'est Io ou Europe, et elle a une pellicule de glace, et on se demande s'il n'y a pas de la vie à l'intérieur. Il va y avoir une expédition qui va, c'est Europe en fait, qui va percer la glace pour aller dans l'océan, qui a un océan en dessous, et là il y aura peut-être des poulpes géants ou
formidables qui vivraient cachés sous la glace
ou des lichens.
C'est une planète puissante, Jupiter, parce que quand on était sous le signe de Jupiter, on était un guerrier. Mais si, c'est vrai.
Je vais faire un micro-trottoir, voir si les gens ont bien aimé sur les planètes. Je vais aller voir. Je sors du studio. Clac, clac. Bonjour. Vous avez écouté ce qu'a dit Arnaud Aymar sur Jupiter?
Oui.
Quelles sont les planètes, vous qui... Parce que, vous, comme beaucoup de terriens, vous connaissez le Soleil, vous connaissez la Lune. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre?
Saturne. Pluton.
Les gens sont bêtes dans la rue en ce moment. Bon, alors ça, c'était bien. Atmen, vous avez quoi, mon vieux?
Alors moi, j'ai les nouveaux mots qui sont rentrés dans le dictionnaire. Il y a des mots rigolos, donc c'est bien de le dire. Alors, pour ceux du Nord, des Hauts-de-France, il y a le mot babache qui vient de rentrer, qui veut dire imbécile. Donc, t'es un babache, un imbécile.
C'est dans le dictionnaire, ça?
Ça, c'est rentré hier.
Ah bon, mais moi, je ne connaissais même pas le mot. Ça vient d'où, babache?
Babache, ça vient dans le Nord.
Alors, mettez-le en situation.
Alors, dis donc, Et pourquoi tu m'as doublé comme ça, babache?
Oui, d'accord. Tu ne parles pas comme ça.
Non, ne le prenez pas. C'était un exemple, Arnaud.
Voilà. Ah. Chez les Canadiens, la tongue veut dire gougoune. On dit gougoune. Esme, mais gougoune. Ça veut dire.
C'est quoi cet accent?
C'est l'accent canadien.
Ah non, je vous assure que non. Alors, vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, non? Alors, une gougoune, c'est rentré dans le dictionnaire.
Ça veut dire, voilà. Il y a le flexitarien. C'est quelqu'un qui régule sa consommation de viande.
Oui.
Bon, il y a bien sûr burkini, burqa, radicalisation qui est rentré aussi hier. Mais moi, c'est le mot qui me plaît le plus, c'est le mot licorne, qui veut dire une entreprise numérique qui marche, qui cartonne.
Alors, c'est un second sens, parce qu'il y avait déjà la licorne.
Oui, mais maintenant, licorne,
c'était
plus
des chevaux qu'on a,
licorne,
qui
on s'en fout, l'oublier, les enfants. Il n'y a que les enfants qui disent licorne. Pardon, ma fille, moi, a une licorne, avec un petit cheval qui a une corne sur la tête, elle dort avec. Elle sait ce que c'est. Et moi, la licorne, je m'en fous, elle
faut
est morte,
faire attention
elle a
quand même, parce que c'est quand même très pointu.
Mais si, alors que licorne veut dire entreprise qui marche. Si alors, par exemple, les gens de chez Uber disent « je travaille dans une licorne ».
Eh bien, je ne le savais pas, je l'apprends grâce à vous.
Oui.
C'est un plus que vous apportez.
Le petit plus, oui.
J'étais là en train de me demander si cette émission était juste une façon de meubler le temps. Eh bien, non, à tout de suite.
Babache.
Oui, mon babache commandant.
Plus près. Love 7h, 9h, plus près de toi.
On est le 31, mais alors c'est aujourd'hui qu'elle est sur scène. Notre amie, notre chroniqueuse Rochelle, pourquoi j'ai changé une voyelle?
Rochelle, c'est yiddish, ceci dit.
Ah, c'est yiddish, et puis c'est la Rochelle sans le la.
Ah,
Rachel
oui,
Kahn, c'est ce soir-là vous allez jouer à la Comédie de Paris, les monologues du vagin?
Mais oui, c'est ce soir la première, Édouard Baer.
Mais ça se joue depuis très très longtemps, les monologues du vagin.
Ça se joue depuis 20 ans.
20 ans, mais vous n'étiez pas née. Alors combien de comédiennes ont interprété ce texte déjà des...
Oh là 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 là, plus d'une cinquantaine de comédiennes. Et puis il a été traduit, c'est un texte qui a été traduit dans 45 langues. Donc,
c'est une aventure incroyable ce texte-là. Dans le monde entier, des centaines de comédiennes, c'est comme un passage de relais, ont interprété ça. Alors c'est à la fois c'est très beau, c'est très étonnant, c'est un titre qui toujours frappe un peu évidemment. Donc là c'est votre première, c'est la première fois que vous êtes trois comédiennes sur scène.
Oui, alors c'est une nouvelle adaptation cette fois-ci, c'est pas une lecture, c'est une vraie mise en scène avec des textes sus.
Oui, c'est ça, parce que jusque-là, c'est une lecture, c'est donc cette fameuse œuvre de Evensler qui s'est jouée dans pas des centaines de pays, parce qu'il n'y a pas 800 pays dans le monde, malgré, mais moi j'essaie de faire des séparations dans chaque pays. Et alors, là, vous êtes avec Marie-Christine Adam, vous êtes avec Juliette Lambollet.
Oui.
Là, donc, c'est mis en scène, vous n'êtes pas face publique en train
de
lire.
Exactement, c'est mis en scène par une metteuse en scène incroyable, Coralie Miller. Vraiment, j'ai un énorme plaisir, un immense plaisir à jouer ce texte. Effectivement, on passe du rire aux larmes, de...
En fait, ça, c'est ma carte de visite de comédien, ça. Du rire aux larmes. Mais Rachel, dites-moi, est-ce qu'il y a des moments du texte qui vous reviennent comme ça, qui vous touchent particulièrement?
Oui, alors moi, j'interprète, il y a un texte qui est assez bouleversant.
Voulez-vous le dire à blanc? Voulez-vous un peu de musique proposée par le Grand Orchestre d'Armelem?
Ah oui, j'aimerais bien le grand... Oh non, on va le dire à blanc.
À blanc, c'est peut-être plus fort.
Parce que par rapport à la couleur de ma peau, ça peut être intéressant.
Ah, vous voulez dire que vous faites une plaisanterie sur le fait que vous êtes noire?
C'est ça, un petit... Vous savez, des noirs sur scène, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pour interpréter les monologues du vagin, c'est intéressant. Il n'y a pas... Les vagins ont plein de couleurs, 1000 couleurs. Donc là, c'est intéressant. Je le dis à blanc.
Je n'ai aucun commentaire à faire sur tout ça. J'écoute un extrait des monologues du vagin par Rachel Kahn.
Mon vagin était vert. Douze prairies scintillantes de rosée, où les vaches chantaient, où le soleil se reposait, où mon fiancé me caressait tendrement d'une brindille de paille blonde. Et puis après, je vous fais juste un petit extrait. Après,
mais c'est court, ça.
Mais oui, c'est très court.
C'est pas plus mal parce que je trouve que ça attise.
Mais après, on est trois comédiennes et on parle sur l'incarnation de tous ces vagins. Comment on l'appelle, comment on ne l'appelle pas. Je sais qu'Atmen Kélif, tout à l'heure, nous a fait un petit point sur... Le dictionnaire, les nouveaux montres. Alors, le vagin.
Là, c'est des moments où Admet Kelly, je lui demande de sortir du studio pour éviter tout dérapage, vous le connaissez.
Il y a des centaines de mots pour ne pas dire vagin. Alors, je sais qu'à 7h30, dire vagin, c'est peut-être un petit peu agressif.
Non, pas du tout. Le sexe masculin aussi a 10 000 noms.
Eh bien, voilà. Donc, voilà. Comment il s'appellerait? Le
Pierre
Minou,
Perret,
la Tandale,
oui.
Le berlingot, le bibelot, la boîte à popole. Voilà, tout ça, on va en parler.
La
on
boîte
en parle,
à popole, je l'ignore. Oui. Alors, c'est à la Comédie de Paris, c'est ce soir et demain.
Oui, c'est ce soir et demain, puis après, on sera au Festival Cosette à Bordeaux, et ensuite, en juillet,
à Avignon, ces grandes aventures des comédiens qui partent à Avignon par 45 degrés, habillés de doudounes pour faire de la journée des processions. C'est très bien. Alors, si vous êtes à Paris, venez en transport, en taxi ou à pied. Si vous habitez plus loin, en stop, en bus... En avion,
en tram.
Merci, je vous embrasse Rachel Merde
pour
ce soir.
Moi je vous embrasse très fort et merci d'être jamais très loin de nous.
Merci de me remercier. Tout de suite, juste avant le journal de 7h30, j'ai mon invité. Bernard Chablansky, vous êtes, votre métier c'est...
Je suis celui qui marche et veut, je suis... Mon métier c'est je suis Obispo.
Vous êtes Pascal Obispo comme métier. Ça consiste en quoi?
Ça consiste en chanter la vie, chanter dans
le
les transports en commun, chanter aussi lorsque je prends mon bain au Adichikuna.
Je vous retrouve tout de suite après le journal de 7h30. Je rappelle donc que je reçois Bernard Jablonski dont le métier est d'être
Pascal Obispo.
Rappel des titres donc avec la grève des camions-citernes reconduite aujourd'hui. Le mouvement lancé par la CGT vendredi réclame une amélioration des conditions de travail pour les transporteurs de matières dangereuses. Soutien réaffirmé par le gouvernement pour son ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré hier soir sur France 2 qu'il pouvait rester au gouvernement malgré l'exaspération des Français, je cite.
Est-ce que je peux rester?
Oui, tu peux rester, j'envoie tous les journalistes du Canard enchaînés en vacances qui nous foutent un peu la paix.
Édouard Balladur, mis en examen lundi dans l'affaire Karachi. L'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 1995 avec l'argent des rétrocommissions. Une décision qu'il a demandé à ses avocats de contester devant la Cour de cassation. Les États-Unis ont réussi pour la première fois un test d'interception de missiles face à la Corée du Nord. Tiré depuis une base américaine de l'US Air Force en Californie, l'interception de missiles balistiques intercontinentales est un message fort pour Pyongyang, qui cherche à se doter de cette arme nucléaire de longue portée. Les États-Unis, qui ont aussi commencé à livrer des armes aux combattants kurdes en Syrie, aux unités de protection du peuple kurde, des milices affiliées au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, classifié terroriste selon le gouvernement turc. Et puis la météo pour aujourd'hui, un temps orageux et nuageux sur l'ensemble de la France. Les températures minimales vont de 10 à 16 degrés du nord au sud. Les maximales varient entre 20 et 24 degrés près de la Manche et du Massif central aux Pyrénées.
Alors, comment ça va, la santé, Justine ? J'ai un petit béco. C'est 4 fois chez moi.
Ah, c'est 6 fois chez moi.
Ah, pardon. Alors, le problème, quand on est journaliste et qu'on présente le journal, c'est qu'on vit dedans. Donc, c'est-à-dire que nous, là, par exemple, des mots comme Karachi ou comme missile américain, on les prend. Mais Justine, elle est habitée par ça. Donc, c'est des choses douloureuses pour vous. Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Vous n'êtes pas prête pour tout ça. C'est trop violent. Je peux pas vous laisser présenter des choses aussi. Je vais vous faire un journal. Avec oui, avec des choses plus agréables. Il est dans la rue. Parce que moi, à 26 ans, je ne savais pas du tout qu'il y avait, ça existait tout ça.
Bonjour. Je suis au coin de Palais Royal.
Vous êtes au point de non-retour, mon vieux, là.
Oui, peut-être, ça, on ne sait jamais.
Palais Royal, c'était à la fois un jardin. Hein, un jardin. Pendant le directoire, c'était un haut lieu de prostitution, vous le savez, vous y étiez déjà là. Ensuite, on habitait autour de ce jardin, bien sûr, des gens comme Colette, Jean Cocteau. Aujourd'hui, le ministre de la Culture, il tient un bureau. Il y a les bureaux de parce que la rue de Valois donne sur le jardin du Palais Royal.
Ah oui,
et on y voit
loin, ouais.
La nouvelle ministre, Françoise Nyssen, qui est là, qui prend son café en peignoir.
Et c'est aussi une pizza.
Non, alors tu sors. Non, reste, pizza, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe là?
Bon, là, il y a plusieurs camions qui déchargent, hein, du matériel. Il y a les terrasses qui se montent. Il y a cette fameuse station de métro qui est assez jolie, dans laquelle un SDF a élu domicile, d'ailleurs. Il a choisi la dorure.
Ah oui, elle est rococo, elle est très étrange. Elle est un peu rococo, quiche. Je ne sais plus de qui c'est l'œuvre, oui.
Je ne sais pas, je pourrais vous le dire.
Ah, il y a des choses qu'on ne sait pas.
Voilà, il y a quelques hommes qui errent. On sent qu'il y en a qui attendent que les choses ouvrent, que le boulot commence. J'ai croisé un type en train de jouer sur Pokémon Go à 38 ans.
Ah, il y a encore, je croyais, on en parle plus. Ouais. Il y a encore des gens qui cherchent
J'ai été surpris. Ouais, j'ai rencontré un homme avec son téléphone, comme ça. Et puis là, je suis avec Mi Tsang, c'est ça, j'ai bien prononcé, qui est coréen, sud-coréen, et qui attend 3 chanteuses coréennes pour tourner un clip, c'est ça ? Oui.
Ah bon, quoi ? Attendez, je remets mon casque. Hein ?
Ouais.
Ils vont tourner un clip.
Moi-même, je suis Mi Tsang Kim.
Bonjour, monsieur Mi Tsang Kim, oui.
Ouais, bonjour. Je suis réalisateur pour un clip vidéo.
Donc là, vous avez choisi ce très beau site parisien des Jardins du Palais Royal pour tourner votre clip.
Oui, c'est ça. On va tourner 3 lieux de Baby Sage et de Paris. Palais Royal et Panthéon.
Oui.
Alors... Et puis la Bois de Vincennes.
Alors, Bois de Vincennes, Panthéon, bien sûr. Plutôt côté colonne Buren, dans le Jardin du Palais Royal ou la partie plus végétalisée ?
Ouais.
Dites-moi, avez-vous les autorisations ?
Oui, bien sûr.
Je vous demanderai de les produire à Jacques Souvent. Non pas que je travaille avec la police, mais je ne suis pas l'ennemi de la délation.
C'est quoi le groupe ?
Oui, mais j'ai demandé autorisation pour accueil de Palais Royal. Ouais.
Comment voyez-vous un petit peu cette mise en scène autour de ces 3 lieux de Paris avec votre... Ce sont des chanteurs, des chanteuses qui c'est le clip de qui ?
Ah oui, elle s'appelle Barbaret.
Essayez de bien savoir son nom avant, sinon elle va se vexer. Hein. Vous savez, les chanteurs sont très susceptibles.
C'est un genre de jazz.
Oui.
Elle chante avec sur la colonne.
Alors vous allez la mettre sur une colonne de Buren, elle va chanter,
oui,
là.
C'est ça.
Dans
oui.
Quelle tenue voyez-vous l'artiste, vous qui êtes...
Avec un costume 70 années.
Belle idée, oui. Un costume des années 70, donc sur une colonne de Buren.
Oui.
Y a-t-il une chorégraphie dans votre clip, monsieur ? Ou est-ce qu'elle va être plutôt statique ? Elle va être le prolongement de la colonne en étant colonisée elle-même, en étant colonne ?
Peut-être elle va danser un peu.
Bonne idée, oui.
Avec chorus.
Excusez-moi ?
Avec deux chorus.
Des chorus, les chorus, chorones.
C'est ça.
Elle a dansé avec le cœur, mais c'est un cœur de bœuf, de veau, son querelle. C'est gore ou c'est le cœur dans le sens avec le sentiment ?
Avec des sentiments.
Ah, il faut danser avec sentiments.
Je crois qu'elle disait des chorus et il y a des danseuses autour.
Ah, avec des chœurs, pardon.
Elle voit trois.
Trois danseuses.
Trois danseuses, dont une principale.
Ce sont des. Tout le monde arrive de Corée du Sud ou ce sont des. C'est un groupe.
Oui, Corée du Sud. J'habitais ici.
Exprès pour le clip, monsieur, ou ce sont des Coréens du Sud qui nous font la gentillesse d'habiter ici?
Oui. Ce clip avec le genre de jazz, avec Belle Paysage et de Paris.
Ça va être
ce mix de
ça va
la
être
musique.
Moi, je crois que ça va être très bien.
Elles viennent de Corée, les chanteuses? Oui.
Elles viennent exprès de Corée pour le clip?
Oui.
Oh, ça me fait des billets d'avion, des machins.
Ou avec au concert aussi.
D'accord. Et vous allez les loger où alors?
Mais c'est quoi le nom du groupe?
Oh, dis donc.
Ah, Barbaret.
Barbaret. Barbaret, c'est du coréen ancien, ça veut dire.
Et lorsque je propose, là, ils les attendent. Donc peut-être à 8h30, on ira les rejoindre.
Ah oui, ça serait génial. On va suivre le tournage du clip ce matin avec grand plaisir.
Oui. Ok, oh, super.
Alors, Armel M, qui est un génie, a trouvé la musique de Barbaret.
En l'occurrence, c'est une reprise de The Ronettes, mais c'est
ah
bien
mais
trois
c'est
chanteuses.
Les Ronettes. Les Ronettes,
vous pouvez mettre le son parce qu'il écoute.
Oui, alors voilà. Ça, c'est la version Ronettes ou c'est la version Barbaret?
Barbaret.
Voilà les Barbaret. Donc on va suivre. C'est énorme ce matin. Ah, c'est du lourd. Donc on va suivre. Okay. Voilà les Barbaret qui ont repris les Ronettes. Elles vont chanter tout à l'heure. Le clip va être tourné dans les jardins du Palais Royal à Paris. Si vous êtes sur le lieu, allez voir Jacques Souvent. Et puis nous, on appellera toutes les 30 secondes. Jusqu'à ce qu'un mort s'en suive.
Et bravo pour le français. Il disait que c'était difficile de s'exprimer quand même en français comme ça.
Non, je trouve pas ça si bien. Bravo. Non, je trouve pas ça si bien, moi. Je trouve pas ça si bien. Je trouve qu'il peut faire des efforts. Bravo, les
on
gars.
On a une autorisation maintenant.
Suivez l'affaire, Jacques Souvent. Jack.
Ouais.
Tu me lâches pas l'affaire des Barbarettes ce matin.
Non, je lâche rien, pas d'impôt.
Lâche rien.
Je perds la tête.
Il est où, mon champion?
À toutes,
les gars.
7h, 9h. Édouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Je me baladais, j'étais perdu.
Il me fait des gestes cabalistiques, Armel, qui doit vouloir dire « Attention, le morceau va se terminer ». C'est un empire de presse, hein, Society. Il y a SoFilm, SoFoot, SoQuoi.
Un magazine de rugby qui s'appelle Tampon, un magazine de cyclisme qui s'appelle Pédale, magazine pour les enfants qui s'appelle Doolittle.
Ouais, on a envie d'en être quand on voit tout ce qui sort de ce groupe-là. On se dit « Ah, on aimerait bien une journée chez Society, ça a l'air sympa, ils ont plein d'idées, il y a plein d'inventions ». Et puis là, il y a il y a ce qu'on appelle un hors-série, hein, c'est un spécial qui a été fait par vous, donc Victor Legrand, vous êtes l'homme de Society dans l'affaire,
ouais.
Et vous êtes associé à Julien Pichenet, qui lui vient plus du monde du sport, qui vient du tennis, ça se voit parce qu'il a vraiment une silhouette très altière.
Oh non, 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 non.
Si.
Ah ben non.
Vous êtes gaulé, mon Dieu, vous êtes gaulé, vous êtes un type qui prenait soin de votre corps.
C'est le polo qui fait ça.
Alors, de l'autre côté, il ne prend pas soin de son corps, mais de son esprit, puisque il a disséqué votre ouvrage Tête de série.
Je dirais pas ça. Hein,
c'est le tennis en 300 listes folles. Beaucoup d'anecdotes sur le tennis que vous avez lu à Tmenke.
Oui, c'est vraiment le bouquin du tennis pour les nuls, avec plein de petites anecdotes pour aller frimer, je pense, à Roland Garros. Le mec qui lit ce bouquin, il a toutes les anecdotes, tous les trucs de concierge. Tout ça traité d'une façon très drôle, très cinéma, je trouve, parce que vous faites des paragraphes assez ludiques, comme ces joueurs qui ressemblent à Pierre Richard, c'est-à-dire tous ces joueurs maladroits qui se cassent la gueule.
C'est qui les joueurs les plus gaffeurs
Non, mais il y avait ils sont pas forcément gaffeurs, mais ils ont fait des gaffes qui ressemblaient à un film.
Il y en a certains, c'est vraiment des costauds.
Comme cet Américain, Sam Querrey, qui refait son lacet sur une table en verre, il se casse la gueule, il se prend des verres dans le bras, dans le pied, dans tout, puis il est absent 6 mois après. Enfin, ça, c'est
alors moi, je suis de la génération des joueurs à la Guerroulaitis et tout ça, ah dont oui. On disait comme dans le rugby qu'ils allaient sortir
c'était
directement
pas gaffeur, ça, c'était des nightclubbers.
Voilà, c'est ça, ils sortaient de boîte pour aller jouer.
Ah bah là, quand on met son nez là-dedans, on n'a pas tout mis hein, avec Victor, mais le monde de la nuit, la débauche, etc.
Il y avait quand même... Nastas,
on aurait pu faire un bouquin spécial là-dessus, non?
Yann Thiriac et sa moustache.
Ouais.
Qui dans le circuit aujourd'hui du tennis en dehors du terrain est intéressant à suivre en dehors?
Ernest Gulbis, le béton, de très loin, c'est le numéro 1. Il a fait une conférence. Il a perdu au premier tour avant-hier contre Cilic. Il a fait une conférence de presse pour trois journalistes qui a dû durer 2 heures, je crois, puisqu'il cite toujours des références littéraires. Il y a des envolées toujours très intéressante avec lui. C'est un fils de milliardaire letton qui voyage en jet privé. Le seul joueur sur le circuit aujourd'hui qui a osé dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient chiants. C'est son terme en conférence de presse. Ouais. Et qui dit qu'il fume, qu'il a testé la marijuana. Il a fait un petit peu de prison en Suède parce qu'il est allé voir des filles de joie, c'était interdit là-bas. Et il a fait une nuit ou deux au poste. Il adorait ça, donc il a dit c'est vraiment super.
Et alors, donc maintenant, c'est vrai, depuis quelques années, on est habitué à voir Federer Nadal, comme moi, on voyait tout le temps McEnroe Borg. Comment est-ce qu'on dirait un fan de Federer par rapport à un fan de Nadal? C'est quoi la différence de personnalité pour vous chez leurs fans?
C'est pas évident à dire, j'ai l'impression que... C'est peut-être un peu grossier, mais que...
Mais soyons-le.
Nadal, c'est le champion des enfants, peut-être, et Federer, c'est un peu plus CSP+, quoi. Non, j'ai l'impression, je verrais ça comme ça, quoi.
Hein, mais votre bouquin s'intéresse beaucoup aux losers, comme je vous disais.
Ah bah c'est beau, les losers.
Les grands losers qui ont des histoires, justement, de nuit, de bouffe, de problèmes avec leur agent, avec leur truc. Et on a l'impression qu'ils ont abdiqué. Ils savent qu'il y a Nadal, Federer, jamais ils les rattraperont. Alors ils ont décidé d'avoir une vie de tennis en gagnant de temps un ou deux matchs, d'être invités partout, et de faire la fête, et d'avoir une vie un peu de rentrer dans la légende par la petite histoire plutôt que de briller en sachant qu'ils n'atteindront jamais le niveau de Federer et de Nadal. Moi, je trouve que c'est ça qui est dans votre livre.
Mais il y a 30 ans, on pouvait faire n'importe quoi et être les meilleurs joueurs du monde. C'est la grande différence.
Ouais,
et on a toujours l'impression qu'aujourd'hui, le tennis est un sport aseptisé, très feutré, ce qui pouvait être il y a très très longtemps. Mais il y a eu une période 70-80, je parle sous le contrôle de Julien, où on se rendait compte que le tennis, il y avait des fous, beaucoup plus qu'au foot d'ailleurs. On a souvent l'impression, on parle souvent du foot, de Maradona, ou de George Best, mais il y avait des tarés, des gens de la culture, de l'intelligence, du cynisme. Et c'était une période...
Le fait que ce soit un sport individuel, Victor Legrand, c'est d'autres caractères que dans les sports d'équipe.
C'est un sport de solitude et de souffrance. C'est très beau, mais c'est vrai. Tous les gens qui ont joué au tennis savent que c'est un sport horrible, qui demande des réglages. Enfin, c'est vraiment, on peut passer.
C'est le calendrier international qui est très dur, c'est qu'on enchaîne tout le temps de tournoi en tournoi. Qu'est-ce qu'il y a de...
Je pense que intrinsèquement, être sur un court de tennis en duel face à quelqu'un pendant 3 heures, ou un mardi on peut rentrer des coups droits et des revers, et le mercredi ne pas en rentrer, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment un sport de. Un sport de con, quoi.
Il n'y a pas un état de grâce. C'est-à-dire, quand un joueur il a gagné quelque chose, il repart tout de suite après au combat, et on a l'impression qu'une carrière sur 10 ou 15 ans, c'est fastidieux pour le mental. Le type, il a gagné un grand chelem, mais tout de suite, il repart au combat et ça devient vraiment quelque chose de terrible.
Il y a tellement d'argent en jeu aujourd'hui que les carrières durent très longtemps. Ils restent tous, ils arrivent à rester. Moi, c'est ce qui me fascine aujourd'hui, et ce qui rend peut-être le tennis paradoxalement moins intéressant aussi, quelque part. C'est que les carrières durent minimum 10 ans. Quoi. Ils sont au top pendant 10 ans. Djokovic, Nadal, Federer sont là depuis 10 ans ou plus. Et ça bouge pas, quoi. On a l'impression qu'ils ont toujours 22, 23 ans et ils sont motivés comme jamais. Il va peut-être gagner son 10e Roland-Garros. Vous rendez compte? Nadal, il faut être fou, quand même, pour vouloir gagner 10 Roland-Garros, déjà un.
Est-ce qu'il y a des. Julien Pichenet, est-ce qu'on apprend quelque chose sur la guerre psychologique en dehors du jeu quand c'est des sports qui sont aussi comme un combat d'échecs, on est vraiment face à face? Est-ce que les coachs vous expliquent des choses d'intimidation, de regard ou des choses?
Oui. Alors ça n'existe plus trop, ça. Aujourd'hui, enfin, c'est pas aussi présent qu'à l'époque. Il y avait beaucoup de punchlines à l'époque sur le court, avant les matchs, l'intimidation. Ça existe un petit peu moins. On peut le voir un peu, mais.
Mais vous l'expliquez dans le livre à un moment donné, comment effacer la trace d'une belle balle d'un joueur.
Ça, c'est
Connors.
Voilà. À cette époque-là, il y avait des trucs assez fous.
Comment faussement rater ses deux premiers sets pour pouvoir déstabiliser l'autre. Tout est bien expliqué. Dans le sens
dans Tête de série, je rappelle le nom, Tête de série, audition Marabout. C'est quoi cette phrase de Yannick Noah? La crétinerie est une qualité essentielle au tennis, plus que dans d'autres sports?
C'est ce que je disais, il y a plusieurs joueurs qui disent ça, qu'il faut être un peu con pour être bon au tennis.
on m'avait dit pour être acteur de cinéma.
Ouais. Pareil, la crétinerie aussi.
Il faut une dose comme
Des noms.
Non, oui, Noah, il a tout dit et son contraire. Noah. Oui. Il a dit que Roland-Garros était ringard, il a dit que ça avait changé sa vie, il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans Roland-Garros, il a dit l'inverse.
Il a dit Saga Africa, ambiance de la brousse.
Il a dit ça. Dans un autre contexte.
C'était prestigieux.
Qu'est-ce qui vous donne encore le goût, surtout vous, parce que vous, Victor, vous êtes un mercenaire dans cette affaire. Ouais. Mais Julien Pichenet, qu'est-ce qui vous donne encore le goût d'aller là-bas, de suivre année après année?
Chaque année, avant Roland-Garros, je me dis, on va vivre une quinzaine incroyable, avec plein de surprises, où ça va être n'importe quoi, sans dessus-dessous. Moi, je rêve d'un Roland-Garros, de nouveau, sans dessus-dessous. On peut l'avoir peut-être cette année, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Hein. C'est quand même très rangé. C'est vrai qu'avant le tournoi, on peut déjà dire ce qui va se passer, Nadal. Et moi, j'adore les surprises. J'adore quand c'est fou, quand ça devient complètement fou.
Être étonné quand quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout. Ouais, mais
qui
sait,
moi, j'adore entendre des gens. Qui sait celui-là, j'en ai jamais entendu parler. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu cette phrase à Roland Garros, mais avant, ça arrivait.
C'est quoi la dernière grande surprise qu'on ait eue un type qui
c'est les 20 ans. C'est les 20 ans là. C'est Gustavo Kuerten, le Brésilien là, avec son sourire ravageur, qui était 66e mondial avant le tournoi et la plupart des journalistes ne connaissaient pas avant le tournoi. C'est génial comme histoire, comme idée.
Est-ce que ça donne envie de jouer au tennis, vous pensez, pour le spectateur, de regarder Roland Garros? Moi, quand j'étais gamin, après, on voulait... Est-ce que ça continue de monter, les inscriptions, suivant le palmarès?
Ah, vous jouez au tennis?
Oui, j'ai joué. Oui, ben oui, parce que comme je regardais ça, je voyais McEnroe, on avait envie, donc
c'est quoi votre meilleur souvenir de Roland Garros?
Mon meilleur souvenir de Roland Garros, c'est la finale de Noah.
Oh non.
Mais on était dans le métro et à chaque station, le conducteur de métro s'arrêtait pour nous dire où en était le score. On était
Ah oui.
Et puis ce truc-là, ben, c'était sur les caractères des joueurs. C'est l'idée que McEnroe était l'enfant terrible face à la sagesse et qu'on pouvait être insupportable, un garnement et gagner. Ça nous rassurait.
Chang Landel, moi c'était. Voilà, je le dis.
Ah oui, on
Chang
en parle.
Chang Landel à la cuillère, qui était le match un peu.
Mais quand vous jouiez, on était sur un revers chopé.
Non, alors moi je suis.
Il va faire un article, attention, dans Society.
Non, j'ai un problème. Revers est meilleur que mon coup droit qui est un peu cuillère au coup droit, mais le service quand il passe, qu'est-ce qu'on est fier, on a l'impression d'être un quand on entend.
Donc du coup, mais vous êtes fier du service qui passe et puis vous pensez à ça et après le point où il est perdu, non, vous faire un tour gagnant.
Moi, ce que je comprends pas dans les joueurs, c'est une fois qu'on commence à l'envoyer dans le filet, après je trouve que c'est un engrenage qu'on peut plus s'en sortir, que la colère monte et on est foutu. Ça me fascine le moral de guerrier.
Nerveux sur un court.
Hein, ah oui, oui, il faut le voir jouer au tennis. Mais
écoutez, ne m'interviewez pas moi, Victor Lévola.
On est en train de glisser.
Donc c'est très amusant ce livre quand même. Il y a plein d'entrées rigoles. Qu'est-ce qui vous a le plus amusé à te mettre?
Moi, c'est les
poser des questions.
Les chiens ramasseurs de balles qui ont remplacé les enfants. Là,
oui, ça a été fait.
Ça m'a fait assez rire. Des chiens qui, d'un coup, pour une exhibition au Brésil, je ne sais pas où. Et comment expliquer qu'un ramasseur de balles, il s'approche, il peut devenir tennisman? Ça m'a beaucoup plu. La petite histoire du palefrenier, moi, ça m'a plu. Et puis vous revenez sur les grands événements. La Coupe Davis qui avait été gagnée. Ouais.
Quelle est la question?
Non, vous m'avez dit qu'est-ce qui vous a dit.
Mais en question après.
Il y avait eu aussi un trafic de ramasseurs de balles.
Ah bon?
Non, il n'y a pas eu ça.
La question, c'est de savoir, vous avez mis combien de temps à collecter toutes ces histoires? C'est ça surtout.
Trentaine d'années.
Trentaine d'années, c'est comme quelqu'un qui aime ça.
Donc là, Roland Garros commence, ça va commencer. Julien Victor, donnez-nous. Qu'est-ce qu'on va voir? Donnez-nous envie d'aller regarder ça.
Des joueurs totalement inconnus qui vont devenir des stars parce qu'ils vont aller très loin à Roland Garros.
Les personnalités toujours du joueur, oui.
Patrick Bruel qui devrait être en tribune. Guillaume Durand.
Ah mais moi à l'époque c'était Charles Gérard et Belmondo. Et
ils sont toujours là.
Ils sont toujours là
pour la finale.
Et Jean-Loup Dabadie, j'adorais le voir.
Non, on le voit moins lui, mais Gérard et Belmondo, ils seront là.
Michel Bougenin aussi.
Merci les gars. Donc derrière le coup, derrière la balle, une personne, un être humain avec ses forces et ses failles. Merci messieurs.
Merci
à vous. Ça s'appelle Tête de série. C'est chez Marabout. C'est très drôle et on apprend plein
de choses. C'est très bien fait.
C'est fait par Sopress. Ils sont très bien.
Oui, très bien. Hein, c'est des gens bien.
Laisse-les aller se recoucher. Merci messieurs.
Attends.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Mais Louise, tu as fait un dessin d'ammoniacal. C'est toi qui l'as fait?
Oui.
Comment tu l'as imaginé ammoniacal? Parce que tu écoutais l'émission, tu...
Bah, déjà, c'est un mi-pingouin, mi-humain, et mi...
C'est vrai, ammoniacal, donc c'est un personnage qui est là
tout... Du coup, faut imaginer un pingouin avec la couleur d'un homme, et puis avec des parties chiffons.
Donc Louise est arrivée ce matin, en plus de son poème, avec un petit dessin qui représente ammoniacal, qui est notre ami qui est là tous les mercredis, qui est mi-pingouin, mi-homme, mi-chiffon. Qui est là et le dessin est...
C'est très ressemblant, en tout cas. J'aime beaucoup comment tu m'as dessiné parce que je trouve que ça me met bien en valeur.
Alors, on te retrouvera tout à l'heure à Maniacal.
Ouais, d'accord.
Donc, Louise, ça veut dire que tu écoutes l'émission?
Bah oui, le mercredi quand je me prépare pour aller à l'école.
Et les autres jours, pourquoi tu nous écoutes pas?
Bah si, j'écoute les autres jours.
Ça me fait énormément de peine.
Mais ammoniacal, c'est le mercredi.
Mais donc, tu n'écoutes que ammoniacal? Tu voudrais qu'il revienne les autres jours?
Bah oui.
Mais parce qu'il est dans sa cage le mardi et le jeudi, t'es à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, comme métier, Louise? Elle regarde
j'ai
son père, vous
métier.
Sortez.
J'ai pas de métier.
À tout de suite.
J'ai pas de métier.
Ah bon, bah alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais la journée?
Bah, je vais à l'école.
Ah d'accord, et c'est pas un métier?
Non.
C'est quoi la différence avec un métier? Puisque tu te lèves tous les... C'est quoi la différence?
Tout de même, c'est un peu comme un métier parce que tu te lèves le matin, puis tu travailles, et puis après tu
vas faire une activité, quoi.
Tu vas faire une activité.
Ouais, mais c'est casse-pied l'école alors que.
L'école, c'est un peu casse-pied ? Chaque année ou ça dépend un peu des années ?
Ça dépend des années.
Là, c'est l'année casse-pied cette année.
Oui.
Bah, j'ai une bonne nouvelle,
c'est terminé. Parce que la maîtresse, on a été qu'une seule fois au cinéma et les autres années, on y allait trois fois.
Bah, qu'est-ce qui lui a pris la maîtresse cette année ?
Par contre, on fait du patinage. On va à la patinoire.
Vous allez voir des films à la patinoire ?
Non, on va pas voir des films, on va patiner.
Ah bon, alors cette année, l'année dernière, il y a eu trois films. Et cette année, ça a compensé. Et c'était
patinoire
quoi le film ?
Patinoire et vélo. Le film, cette année ?
Oui.
La jeune fille et son aigle.
Vous l'avez vu, Jean-Noël Mistral, ce film ?
La jeune fille et son aigle, non, mais quand l'histoire s'est vraiment passée, où j'ai vu la jeune fille.
Ah, vous n'avez pas vu le film, vous avez vu la vraie. Oui, vous avez connu cette jeune fille.
Oui, j'ai connu cette jeune fille, elle avait un aigle, et puis ensuite, bon, l'aigle est parti, il est revenu.
Ne dites pas, ne spoilez pas, comme on dit, la fin. Après, et l'année dernière.
C'est pas ça ?
C'est pas ça du tout.
Si, si, c'est ça.
Non, enfin, c'est parti
de après, ça, le film, ils ont changé l'histoire. Mais
et c'est du patin à glace après.
On fait à la patinoire ?
Oui.
Oui.
Mais tu te rends compte que tu dis toute l'année elle est casse-pied juste à cause de deux séances de cinéma en moins quand même.
Bah non, c'est la maîtresse aussi.
Et tu passes en quoi cette année, l'année prochaine ?
En CM2.
D'accord, et CM2, oui, c'est la septième. Et là tu voudrais qu'il y ait plus de films ? Attends quoi ? Tu espères qu'il va y avoir quoi ? Là, fais une liste de choses que tu voudrais l'année prochaine.
Bah, qu'on aille au cinéma.
Cinéma,
qu'on
d'accord.
Qu'on refasse du patinage.
Oui.
Bah ça, on va le faire.
On peut avoir deux, vélo, trois vélos. Est-ce qu'il peut y avoir un tout petit peu de cours au milieu, un tout petit peu de maths, de français, tout ça ?
Ah oui.
L'histoire géo, un tout petit peu. Entre deux patinoires. Ah bon, quand même, t'es sympa.
Mais non, c'est le mardi, on faisait patinoire et le vendredi, on faisait vélo. Avant, c'était le mardi qu'on faisait vélo.
Mais enfin, tu es comme ma fille, vous retenez que la récré, la cantine et les activités de sport ou de cinéma. Mince, père, tout le monde s'en fout. Alors, on fait de l'histoire géo, des maths, des français, ça n'intéresse personne. Alors, et ton poème
bah oui,
alors...
ça n'intéresse pas.
C'est vrai, pas trop ?
Bah non, pas du tout.
Mais dans l'histoire, il y a des belles histoires, par exemple, non ?
Oui.
Il y a Vercingétorix qui se fait brûler.
Quand elle est assise.
Tu l'écoutes quand elle est assise, donc il faut
bah
lui...
Bah oui, mais sinon, après, on n'écoute pas. On n'écoute pas quand elle est debout.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui dire gentiment, peut-être maîtresse, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, tu l'appelles par son prénom, ou tu l'appelles comment ?
Non.
Madame, maîtresse, de lui dire peut-être, asseyez-vous, peut-être qu'il faut... Il n'y a pas un délégué
bah
de classe ?
Non, parce que sinon, comment elle fait pour écrire au tableau ?
Eh bien, peut-être qu'elle peut avoir, par exemple, une très longue craie qui fait 2 mètres.
Mais ce n'est pas un tableau à craie, c'est un Velleda.
Alors, peut-être qu'avec un très long feutre qui serait au bout d'un bâton, elle pourrait à la fois être assise et écrire sur le
Velleda. Elle écrira mal et puis après on ne comprendra rien.
Mais avec un miroir, peut-être, avec un miroir, avec un rétroviseur, elle peut peut-être écrire bien.
Ou peut-être qu'elle peut embaucher quelqu'un qui serait
un rétroviseur.
Non, parce qu'après c'est lui qui ne va pas écouter.
Mais il n'y a pas de solution alors ?
Bah non, il n'y a pas de solution.
T'es un peu Nietzschéenne, je trouve.
Oui, je ne sais
même pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire que tu vois le. Que tu vois. Plutôt, t'es plutôt dans le désespoir. Enfin, tu trouves que les choses finissent toujours mal, dans un sens. Enfin, tu n'as pas une solution.
Non, pas
positive.
Du tout, parce que si tu dis avec le sourire, je crois que tu dis que ça ne peut pas s'arranger, mais ça va quand même.
Ouais.
Bof.
Tu sais, il y a une phrase qui dit il ne faut pas s'inquiéter dans la vie, parce que rien ne s'arrange jamais. On écoute ton poème, Louise. C'était quoi ton poème que tu
Le brouillard.
Le brouillard, c'est basé sur des faits réels. Est-ce que tu veux mettre ton casque ? Est-ce que tu veux de la musique pendant ton poème ? Qu'est-ce qui te plairait ? Tu veux un petit peu de musique ou juste le dire comme ça ? Non, alors on écoute Le brouillard par Louise.
Le brouillard. Le brouillard a tout mis dans son sac en coton. Le brouillard a tout pris autour de la maison. Plus de fleurs au jardin, plus d'arbres dans l'allée. La serre du voisin semble s'être envolée. Et je ne sais vraiment où peut s'être posé le moineau que j'entends si tristement crier. Maurice Carême.
Ah, il est bien ce Maurice.
Oui.
J'en ai appris aussi.
Je l'avais appris quand j'étais petite en CP, je crois.
Ouais, mais c'est parce que
et
tu l'aimes.
Et là, c'est pour la classe, et pour l'école, on l'a refait.
C'est parce que tu l'aimes
mais
beaucoup.
Mais c'est nous qui cherchons la poésie, c'est nous qui choisissons.
Eh bien, il est très bien ce Maurice Carême. Moi, j'étais assez ami de Maurice Carême à l'époque. Merci Louise, tu vas filer à l'école là ou pas ? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ?
On est mercredi comme jour.
Tu pars où ?
Puisque je viens d'Angers, je ne vais pas retourner.
Ah, tu viens d'Angers ? Exprès pour nous ? Ah, la chance, c'est super sympa. Merci beaucoup. Jean-Noël Mistral, vous connaissez Angers. Vous savez qu'il y a Patrick Bossard, Pat Lerat qui est à Angers.
Je sais.
Notre camarade. Jean-Noël, vous avez aimé Le brouillard ?
J'ai aimé le brouillard, j'étais donc perdu dans le brouillard de tes mots, et j'ai Louise, et j'ai perdu connaissance à un moment donné. J'étais dans une sorte de coma, mais de coma positif.
Oui. Alors on vous retrouve tout de suite après pour votre poème, après le journal.
D'accord, je vous dirai votre
poème à Louise et aux auditeurs.
Je dis à mon ami le Pélican qu'il prévienne les hommes de la forêt.
Voilà, faites ça.
Justine attrape un casque, elle s'approche du micro. Les infos, Justine Martin.
Justine Martin, Justine Martin, les infos de 8h03.
Ça commence. Le Premier ministre Édouard Philippe a réaffirmé hier soir sur France 2 son soutien au ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Richard Ferrand qui est soupçonné de pratiquer depuis 20 ans un mélange des genres entre politique et affaires, intérêts publics et privés.
N'ouvrez pas le journal là-dessus. Ne canard enchaînerisez pas ce journal.
Lors de cette interview, le Premier ministre a également annoncé le report du projet de loi de moralisation de la vie politique qui devait être initialement proposé avant les législatives. La grève des conducteurs de camions-citernes reconduite aujourd'hui. Le mouvement avait été lancé par la CGT vendredi dernier qui réclame une amélioration des conditions de travail pour les transporteurs de matières dangereuses, les carburants, le gaz ou encore les produits chimiques. Édouard Balladur, mis en examen avant-hier dans l'affaire de Karachi, selon des informations révélées par Le Canard Enchaîné et Le Monde, l'ancien Premier ministre âgé aujourd'hui de 88 ans est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 95 avec l'argent des rétrocommissions sur des contrats d'armement. Édouard Balladur a demandé à ses avocats de contester cette décision devant la Cour de cassation. Dans l'actualité internationale, au moins 86 personnes blessées à Kaboul en Afghanistan dans l'énorme explosion survenue ce matin dans le quartier diplomatique. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque pour l'instant, mais l'explosion intervient peu après l'annonce fin avril par les talibans du début de leur offensive de printemps. La justice brésilienne vient d'autoriser l'interrogatoire du président Michel Temer afin qu'il puisse être interrogé dans le cadre des enquêtes de corruption le visant. Une décision qui intervient dans le cadre de l'opération Lavage Express lancée il y a 3 ans, qui avait révélé un vaste réseau de corruption, orchestré notamment par des entreprises du bâtiment pour truquer systématiquement les marchés publics. Le juge, à l'origine de cette décision, a ordonné que l'interrogatoire soit effectué par écrit. Le président aura 24 heures pour répondre. Les États-Unis ont commencé à livrer des armes aux combattants kurdes en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense hier. En dépit de la Turquie, le président américain Donald Trump avait décidé début mai d'armer les milices kurdes, les unités de protection du peuple kurde, des milices affiliées selon le gouvernement turc au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan classé terroriste par Ankara. Les pédophiles australiens bientôt privés de passeport. L'Australie a annoncé hier son intention d'annuler les passeports de ses ressortissants condamnés pour pédophilie. Une mesure qui viserait à les empêcher de récidiver à l'étranger. Selon le ministère de la Justice, cette décision entraînerait la saisie de 20 000 passeports appartenant à des personnes ayant purgé leur peine, mais continuant d'être poursuivis par les services judiciaires.
Ça veut dire qu'ils vont habiter dans un pays indépendant, Pédophilande
ou... Non, Arnaud.
La météo pour aujourd'hui, un temps calme mais nuageux au nord et très orageux dans le sud. Les températures minimales vont de 10 à 16 degrés du nord au sud. Les maximales varient entre 20 et 24 degrés près de la Manche et du Massif central aux Pyrénées. Et puis pour finir, les terres agricoles françaises grignotées et même dévorées par l'urbanisation. C'est ce qu'a révélé hier la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces terres agricoles sont de plus en plus prises d'assaut par les zones pavillonnaires, les routes ou encore les centres commerciaux.
Mais bien sûr, c'est contre l'émiettement comme ça qu'il y avait tout un projet de Richard Ferrand là-dessus. Donc n'allez pas me le foutre en tôle tout de suite parce qu'il y a 8 ans, il aurait fait un truc vraiment. Richard Ferrand. Jean-Noël Mistral.
Bonsoir.
Jean-Noël, tout est merci à Justine Martin, bien merci. Sûr. Mais ce qui m'a frappé chez vous, je vous ai regardé, écouté le journal, et je trouve que tout est poésie pour vous. Si vous arrivez à transformer la bassesse, la normalité du quotidien en poésie.
Eh bien, j'écoutais sa voix et j'étais comme au milieu d'une fontaine. J'ai l'impression de voir de l'eau couler.
Un jaillissement,
et,
oui.
Justement, mon poème, c'est sur l'eau.
Ah, ça tombe bien, oui.
Oui, c'est marrant, hein, oh, les coïncidences.
C'est, le mot est faible, Jean-Noël Mistral, c'est irrésistible.
C'est incroyable de voir autant de choses qui correspondent au niveau de la,
la poétique.
Et du rire aussi, parce que là, le rire est en cascade. Quoi,
et quand vous dites le rire, vous prononcez comme s'il y avait quatre R.
Oui, le rire. Mais là, on est dans le rire à gorge déployée, là, on est vraiment dans l'hilarité.
Dans l'hilarité.
Et ça libère, c'est un rire, c'est pas le rire.
Non, c'est le rire. Non, comme c'est pas celui-là.
C'est pas celui-là. C'est là.
Non, celui-là est superficiel. Oui, il n'arrive pas de la glotte.
Bien entendu, je vous ai piégé. C'est là.
Bien. C'est là. Vous parlez, moi, je vais vous parler des rires des pierres. Les rires des pierres qui descendent des vallées quand l'eau est asséchée.
Les vallées du Nevada que chantait Sim. Sim. Du Nevada qui dévala dans la vallée. Chanteur Sim.
Sim qui avait cette. Qui était physique minérale.
Oui, on disait, Michel Audiard disait de lui, c'est le Sim et le fruit des amours d'un étourneau et d'une pointe bique.
C'est beau.
On vous écoute, Jean-Noël Mistral.
Je ne suis pas très fier.
Non, mais alors sans doute.
Oh, tu me rafraîchis. Oh, ça c'était le titre. Oh, tu me rafraîchis. Tu me rafraîchis de ta pelote de gouttes frottant ma peau agarte. Le vent, enlevant la poussière des étangs sur ma peau. La poussière des étangs et des grottes. Oh, tu me contiens et je suis ton récipient. En moi, tu t'agites à 37 degrés Celsius. Je suis ta maison, je suis cette éponge dans laquelle tu glouglottes. Et pour ça, je te respecte. Et pour ça, tu es pour moi. Et peut-être c'est un peu ambitieux. Tu es le symbole de la vie. La vie qui pullule, la vie qui se disloque et se reforme. Regarde cette grive sur cette branche. N'est-elle pas une sorte de ver d'eau? Et cette tourterelle, n'est-ce pas non plus un ver d'eau? Et cette limace qui serpente, c'est un ver d'eau aussi.
Un ver d'eau, oui.
Et ce renard?
Non, là, lui, non.
Si?
Ah si, pardon.
C'est un ver d'eau. Oh, tu flottes sur toi-même. Et au fond des rivières, tu fais danser les algues. Et au fond des intestins, tu fais danser la flore intestinale.
Oula, oh, ouais.
Tu es pour moi le dieu et la déesse. C'est toi qui fais le bien, le lien entre nos bouches quand on s'embrasse. Tu passes de verre en verre et tu trinques à notre bonheur de nous aimer.
Eh oui.
Oh, tu m'enchantes même quand tu es méchante et fais couler les bateaux sans faire exprès.
Ah oui.
Tu débrides et tu chantes quand tu bouilles. Ouf. Pour cet œuf que tu dois cuire. Oh, tu fais durcir les œufs.
Quel programme, oui.
Je n'ai pas bien compris vraiment la symbolique de cette dernière phrase.
Non, vous êtes vidé là, vous êtes éminé.
Je ne suis pas très fier, j'avais
dit. Si c'est bien, Louise, tu as apprécié ce poème? Tu peux dire la même. C'est pas. Oui, c'est pas.
Tu as bien aimé ou
c'est
pas?
C'est long.
C'est long, c'est long. C'est long et encore là, c'est le premier quart.
Moi, je prends ça comme un compliment que ça soit long parce que comme l'eau est partout, évidemment qu'on est dans la longueur.
Parce que là, si tu veux, c'est comme là, la vie est longue mais ennuyeuse, alors qu'elle peut être très courte et amusante.
Et ennuyeuse aussi, on peut aussi avoir une vie courte et ennuyeuse.
Moi, j'ai adoré Kiki la fleur. À tout de suite. Ré bémol dièse. Jacques Souvent est toujours dans Paris, dans le cœur de Paris, ce jardin du Palais Royal qui est si beau. Jacques Souvent, vous étiez sur un clip sud-coréen tout à l'heure avec les Barbettes.
Ils sont en train de se préparer, donc je les laisse un petit peu, je vais les retrouver tout à l'heure.
Les Barbettes, hein, j'aime bien qu'on répète le nom plusieurs fois.
Et sur le chemin, il y a les arcades, on voit les colonnes de Buren, là, d'ailleurs, ils sont en train de s'installer là-bas. J'ai rencontré Christophe. Par hasard, Christophe, il a un t-shirt Hug Life avec une tête de mort. Il a un tatouage de croix sur le bras.
Ok, il est en colère, je m'en occupe. Oui.
Et ouais, il est plutôt cool.
Non.
Il avait une petite démarche assez tranquille. Et c'est son dernier jour de boulot aujourd'hui, Christophe, c'est ça?
C'est ça.
Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est votre dernier jour là, maintenant, là?
Oui, aujourd'hui, ouais. Je termine le mois. Et...
Retraite, démission ou vous êtes viré?
Non, non, rien du tout. Je retourne chez moi en Haute-Loire.
Je retourne chez moi en Haute-Loire. À Haute-Rive, chez le facteur Cheval, vous allez où?
Issaingeau.
Issaingeau, je connais pas. Vous y êtes allé chez le facteur Cheval, là-bas ou pas? C'est pas en Haute-Loire?
Non, ça me dit rien.
Dites-moi de temps en temps oui, sinon je suis humilié devant les
Épinal,
auditeurs.
C'est vers Épinal, le facteur
oui.
Merci beaucoup, Christophe. Donc, fin de jour. Est-ce que c'est parce que c'est votre dernier jour que vous avez mis ce t-shirt et cette tête de mort?
Non, il fait beau, tout ça, je voulais en profiter de sortir, c'était le moment de le montrer. Donc...
Quel boulot vous autorise à cette tenue vestimentaire assez décontractée?
Opticien, mais je suis dans la réparation des lunettes.
Alors, vous réparez les montures ou les verres?
Les montures.
Alors, qu'est-ce qui se passe, les montures? On mordit le truc qui tombe?
Les charnières, des fois, elles bougent. Oui. Les branches, les réglés, les tenons, les ajuster sur les personnes.
Christophe, vous êtes à l'arrière ou c'est vous qui recevez la clientèle aussi?
Non, je suis plus à l'arrière.
Vous croisez pas du tout parce que on peut rêver parfois quand on voit une très jolie femme et il y a ses lunettes à réparer. On imagine ses oreilles quand elle a posé ses lunettes.
C'est moi qui ouvre des fois aux clients quand ils sont pas là. Mais je suis pas très fan. Je préfère rester dans l'ombre.
Oui, mais on va faire une mise en situation quand même. Tiens, Marie Missier, si vous pouvez m'aider. Donc là, on est là. Vous êtes dans ce magasin d'optique qui est ouvert Palais Royal.
Oui.
Alors, on est là. Donc, les patrons sont pas là. Vous êtes obligé de recevoir la cliente. Elle
Bonjour.
Est là.
Bonjour. Je cherche des lunettes de soleil.
Non, vous avez cassé vos lunettes.
J'ai cassé mes lunettes.
Non, écoutez, Marie, je vais confier le rôle à un homme, comme mais toujours. Non,
bonjour.
C'est toujours les
bonjour.
Hommes qui reprennent les rôles des femmes.
J'ai cassé mes lunettes.
Ah, c'est moins excitant quand même.
Ah oui, alors... On n'est pas que là pour vous exciter. Non. Les femmes ne sont pas que là.
Incroyable, ce machisme.
Surtout que j'ai vraiment cassé mes lunettes, donc si on peut faire quelque chose...
Oui, alors donc, c'est combien de temps, là, si par exemple j'ai ma branche est pétée, Christophe?
Ah bah si c'est une branche, si c'est une charnière. Donc la charnière, c'est ce qui tient la branche à la face de la lunette. Je peux le faire en, 10 minutes.
Alors c'est les 10 minutes commerciales, c'est-à-dire revenez dans 10 minutes et là on dit attendez un petit peu, ou c'est des vraies 10 minutes?
Non, c'est vrai 10 minutes. Après, ça dépend de la marque de lunettes aussi. Que nous, on fait notre marque, on fait pas la marque des autres.
Et Christophe, quand on vous demande, par exemple, si quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous dit de vous décrire physiquement, vous dites quoi? Dit Christophe, à quoi tu ressembles? Vous dites quoi?
Oh, simple, hein, blond, châtain, 1m75, 68 kilos.
Ben, c'est pas si simple déjà, il y a déjà deux couleurs de cheveux pour la même personne. Donc on est plus sur des chiffres, quoi. On est plus sur du 60...
Oui, après, normal, quoi, basique. Quoi.
Si on était dans des petites annonces un peu matrimoniales, amoureuses, vous diriez quelles sont vos qualités?
Ben, au contraire, il faudrait qu'elle vienne les chercher, ça serait...
Caché, c'est fameux.
Ça serait mieux, quoi.
Et alors, vous retournez en Haute-Loire, c'était prévu ou vous en avez eu marre de Paris?
Un peu des deux.
Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé à Paris?
Ah, il y a trop de monde, les métros, tout. C'est pas... Du coup, j'y vais à pied tous les matins au boulot. J'ai une demi-heure de marche, mais ça me dérange pas.
Ça vous fait flipper, tous les corps serrés les uns contre les autres?
Ah, je suis pas fan, ouais. Surtout avec la chaleur maintenant.
Vous avez eu affaire à un frotteur du métro déjà, peut-être?
Non. J'espère pas, sinon...
sinon
vous êtes frotteur vous-même, peut-être?
Non, monsieur, non, à peine frotté. Ni frotteur, ni frotté.
À l'ail.
Et dites-moi, quand vous allez rentrer chez vous, qu'est-ce que vous... Alors, c'est plus tranquille, vous êtes...
c'est la campagne.
Vous êtes seul, là, ou vous avez une famille, là-bas?
J'ai toute ma famille. Là, j'ai que ma conjointe, ici.
Bon, alors, elle est contente de rentrer aussi?
Bah, elle fait du théâtre, donc ça va être plus compliqué pour elle.
Ah oui, il y a moins de...
Il y aura moins d'opportunités.
Il y avait un sketch des chiens comme ça où Bruno Lechy disait « Je vais être chanteur d'opéra, mais pas trop loin de chez moi à La Flèche, et plutôt l'après-midi, parce que le soir, j'aime me coucher tôt. »
C'est vrai. Mais bon, on sera plus tranquille quand même.
Bon, bah, je vous souhaite un bon retour là-bas.
Bah, merci, c'est gentil.
Salut Christophe. Et
Bonne journée,
je vous ai interrompu. Salut. Et par la magie du téléphone, qui est une invention, je vous expliquerai comment ça marche, on se retrouve au Caire. Et c'est très étonnant d'être là. On est avec le lycée français du Caire, avec Aude Quéret et Marie Giraud, qui animent un atelier d'audiovisuel pour des élèves de 13-14 ans. Marie Giraud est professeure de français. Bonjour.
Bonjour.
C'est Aude ou Marie?
Là, c'est Aude. Marie est à côté et qui filme la scène.
Aude, décrivez-nous un petit peu le lycée français du Caire.
C'est un lycée qui est tout neuf, qui a 3 ans. Nous sommes dans un quartier qui s'appelle le quartier El Merail. Est coincé entre plusieurs autoroutes, c'est un peu, on est un peu isolé, mais il y a beaucoup d'infrastructures comme une piscine, un beau stade, un studio radio, un atelier vidéo, et les locaux sont tout neufs et ils sont très beaux.
Aude,
on est très gâtés.
Aude, là il y a tous les élèves autour de vous?
Oui, tous les élèves sont là, élèves de l'atelier audiovisuel.
Combien
sauf
ils sont?
Lily qui est absente.
Combien ils sont là?
Alors, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Il y a 6 élèves.
On peut les entendre. On peut avoir
oui,
un.
Oui, allez-y. Bonjour, bonjour.
Bonjour. Ah,
c'est trop sympa d'être là ce matin au Caire en même temps qu'on est à Paris. Alors, racontez-nous ce que vous faites avec eux.
Alors, je vais vous présenter Nour, d'accord, qui va vous parler de son travail à l'atelier.
Bonjour Nour.
Bonjour.
Nour.
Nous, à l'atelier, on fait des interviews avec des artistes ou des chercheurs, je sais pas.
Donc là vous êtes égyptienne ou vous êtes une Française en Égypte, Nour?
Je suis franco-égyptienne.
Et vous avez quel âge?
J'ai 12 ans.
Et vous voulez faire ça? Vous voulez interviewer des gens plus tard? Vous auriez envie de faire quoi?
Une fois que j'ai commencé l'atelier, je pense que j'ai changé d'avis sur mon métier de plus tard. J'aime bien ce qu'on fait ici, mais je sais pas, je n'ai pas vraiment décidé.
Pourquoi? Parce que c'est pas du tout comme tu pensais que ça serait. C'est très différent.
Oui, c'est différent et c'est très épanouissant. J'aime beaucoup, moi, cet atelier.
Donc, c'est en dehors des cours. Tu vas à cet atelier audiovisuel, tu interviews des gens, tu les filmes.
Voilà.
Qu'est-ce qui...
On y va à la pause méridienne pendant la pause où on mange, et ben on va à l'atelier.
Et là, parfois, on vous prête une caméra, un micro et vous partez interviewer des gens?
Oui, mais en fait, les gens, ils viennent plutôt à l'atelier ici, parce qu'on a une sorte de petit studio où il n'y a pas de bruit, et où il y a un fond vert et tout, et c'est là où on interviewe les gens.
Et qui tu as rencontré, qui tu as interviewé, qui t'a touché, qui t'a plu, qui t'a intéressé?
On a interviewé Christian Leblanc, c'est un égyptologue de Louxor qui a découvert pour la première fois une école pharaonique.
Ah bon? Donc on découvre encore comme ça des choses aussi étonnantes,
oui,
dans des fouilles à Louxor.
On est aussi allé à un SAMU social, c'est une maraude comme ça, on est allé à une maraude à Rue Neuf, à Mahadi, c'est un quartier plutôt chic, et on a distribué des vêtements qu'on avait récoltés au lycée, une collecte qui a été organisée par les secondes.
Donc tu as suivi l'équipe de maraude sociale là, dans les rues du Caire?
Voilà. Avec Elias. Madame Aude, elle était avec nous aussi.
Ah oui, elle a soufflé, elle voulait que tu la cites, hein, cette autre querelle. J'ai entendu dire et tu n'étais pas seule. Tu peux me dire plusieurs fois le mot Louxor, ça me fait rêver.
Louxor.
Vas-y, s'il te plaît.
Louxor.
Passe-moi tout le monde, je voudrais que tous les gens de la classe me disent le mot Louxor.
Louxor,
tous à Louxor. Rendez-vous à Louxor et au barrage d'Assouan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble, Aude Kéré, ce matin, avec tous vos élèves du lycée français? Une chanson?
Chanter?
Allez, on chante. On chante, on termine avec toutes les élèves de l'atelier du visuel du lycée français du Caire. Louxor, j'adore. Et on vous écoute tous.
On va chanter Santiano d'Hugo Frey.
Ah, bah si même Hugo Frey est une star en Égypte, alors, évidemment. Alors, on vous écoute.
3, 2,
ah, le fameux 3, 2, 1.
La vache.
La prise de son est d'Atmen Kélif.
Évidemment.
Ce matin, les élèves du lycée du Caire chantent du Hugo Frey et vantent l'idée d'aller à Santiago. On ne sait plus, le monde est un, tout le monde est réuni dans cette chaîne étonnante. Louxor, Hugo Frey, le Caire n'oublie jamais tous ces mots. Merci à tous, belle journée.
Merci.
Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Ah mais il l'a mis. Merci Armelino, mais c'est trop Nova. C'est très bien, c'est bien ce matin quand même. Là, c'est très étonnant, je trouve, d'être avec des élèves dans leur classe à Louxor. Je sais pas, peut-être que je suis un peu gamin, ça me fait rêver ce truc-là. Minou, qu'est-ce que tu dis ?
Non, j'ai dit, c'est bien d'entendre le Caire, là, très tôt le matin, ça fait voyager.
Oui.
Parce que ça donne un petit côté comme ça exotique.
Voilà.
Voilà, Luxor, Anaxunamon.
Oui, mais on l'a dit, ça.
Mais non, mais je le redis,
j'ai envie de vous embêter.
Mais ça, j'avais compris.
Mais c'est de l'amitié, vous le savez bien.
Ça fait 30 ans.
Marie Missé.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud ? Vous êtes louche, là.
Je sais pas, mais il a dessiné Ammoniacal. Regardez.
C'est pas moi qui l'ai
dessiné. C'est la petite fille de tout à l'heure qui a dessiné Ammoniacal. Alors, s'il vous plaît, parce qu'après, il y a le journal de 8h30, j'ai des horaires à tenir. Vous vous rendez pas compte, vous êtes des enfants, vous croyez que c'est un grand terrain de jeu ? Non. On est le matin, il y a des gens qui sont là, ils disent à 8h26, je suis en retard pour emmener mes enfants à l'école à 8h30, je veux d'abord la revue de presse de Marie Missé.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Missé.
Marie Missé.
Ah, vous mettez nu.
Rebonjour. Non, oui. Pas du tout, j'aérais mon torse.
Très bien. Bonjour à tous. Même si on souhaite s'en échapper, impossible dans la presse ce matin, les affaires reviennent aux affaires. C'est évidemment le ministre de la Cohésion des Territoires et proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, empêtré jusqu'aux aisselles dans des emmêlements d'intérêts publics et privés, la star des journaux ce matin, l'encombrant monsieur Ferrand pour le Parisien en une. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Dit aussi Libé, le poison du soupçon pour la Nouvelle République. Dans l'ensemble, les propos se ressemblent beaucoup. Tous admettent, Libé, le Parisien, le Figaro, qu'il n'y a a priori rien d'illégal.
Ah, bah alors qu'on lui... Moi, je l'aime beaucoup. Il a l'air très sympathique, ce monsieur Ferrand. Foutez-lui la paix.
Amoral de Richard Ferrand, tous semblent aussi considérer que quand un parti fait campagne sur le changement des vieilles pratiques, la transparence et le renouveau, Richard Ferrand devient une sacrée épine dans le pied. Le traitement cependant diffère selon les journaux. Dans Ouest France, on comprend mais on se fatigue un petit peu de cette chasse à l'homme politique. Dans Le Parisien, on a l'air d'avoir vraiment envie que la polémique enfle. Pour l'instant, ça ne prend pas dans l'opinion, a-t-on l'air de regretter, mais il reste 10 jours avant les législatives, disent-ils. Les 10 jours en politique, c'est une éternité. Ce matin, dans les journaux, je change de sujet, on parle aussi
on change de sujet, de
la mort du dictateur du Panama, Michel Noguera, à 83 ans.
Arnaud,
l'appelait aussi face d'ananas. Hein. On avait dit pas le physique, mais Michel le mérite un petit peu. Face d'ananas, parce qu'il avait le visage un peu grêlé. Eh bien, il représente un bout de l'histoire pas glorieuse du XXe siècle. Le Figaro raconte à quel point l'homme était double, l'homme était duplice. Agent de la CIA, puis au service des renseignements de son propre pays avant d'accéder au pouvoir, il fait partie de cette vague de dictateurs sud-américains soutenus par les États-Unis, les yeux fermés pour lutter contre leur peur panique du communisme. Il a aidé, financé des mouvements anti-guérilla révolutionnaires dans toute l'Amérique centrale, et ce, toujours soutenu par les Américains, tout en livrant, à côté de ça, des armes à ces mêmes guérillas. Cet agent du chaos, made in USA, nous dit Libé, a aussi été récompensé pour sa lutte contre la drogue. Alors que c'était le plus grand copain de Pablo Escobar qui lui a permis de blanchir pas mal d'argent. En réalité, il aidait bien à la lutte anti-drogue selon la DEA, puisqu'il a balancé tous les concurrents d'Escobar pendant un certain temps. En 1987, en France, on lui donne quand même la Légion d'honneur qu'on lui retire ensuite. Et puis le vent tourne, hein. Soudain le mur de Berlin s'effondre, la lutte contre la drogue devient plus importante que la lutte contre le communisme. Et si, comme le dit le Figaro, l'homme est double, vicieux, duplique, les États-Unis sont maîtres dans cet art de la duplicité. L'homme n'est plus utile, il prend trop ses aises et ravit la tête du pays à l'élu pro-américain choisi par les États-Unis. Les États-Unis décident donc de le capturé. Après 2 jours d'une opération militaire un petit peu chaotique qu'ils ont appelée la juste cause, qui fait 520 morts quand même selon Washington, 10 de plus selon les observateurs cités par Libé, ils contraignent Noguera à se rendre. Comment, nous dit le Figaro ? Eh bien en balançant à plein volume et 24 heures sur 24 du rock hyper fort à côté de l'ambassade du Vatican dont il finit par sortir. Hein. C'est là qu'il s'était réfugié. L'homme était double, mais que dire donc des politiques qui l'ont soutenu puis tué ? Libé résume l'affaire en fin d'article et en quelques mots. Cet homme restera un cas de figure très XXe siècle, un homme choyé par la diplomatie secrète américaine qui ferme les yeux sur son mépris pour la démocratie et les droits de l'homme et qui, loin d'être la marionnette qu'imaginait Washington, devient son pire cauchemar. Alors on dit très XXe siècle, mais nul doute que le XXIe siècle nous fournira encore de très beaux spécimens de la réelle politique.
Merci beaucoup Marie Missé. Lutte contre la drogue, ça n'est pas que l'affaire de la CIA. Je reçois Bernard Bifaille. Bernard Bifaille, vous êtes chargé de la lutte anti-drogue aux charcuteries Le Blanchec. charcuterie de Blanchet, 12 rue Le Courbat-Melun. Il n'y a eu aucune affaire de drogue dans cette charcuterie, grâce à vous, Bernard Bifaille.
On ne sait pas encore. On est en train, justement d'enquêter sur le sujet. On a disposé tout un matériel de sécurité afin d'observer tous les clients, d'observer aussi les gens qui travaillent
qui
dans cette charcuterie.
Qui ont la main dans la pâte.
On a des chiens qui sont état de manque afin de repérer.
Des chiens et des porcs aussi.
Et des porcs en état de manque.
Dit porc. Donc, Bernard Bifaille, vous êtes payé par les charcuteries de Blanchet, 12 rue Le Courbe, charcuterie qui présente un maître charcutier, deux apprentis et une vendeuse. Et vous me dites, en 8 ans de travail à temps plein, je n'ai pas trouvé l'once du début d'un milligramme de drogue.
Si, exactement.
Vous n'avez rien
pas exactement, mais j'ai senti le souffle.
Non, pas du tout. Ouais, c'est une arnaque. Le journal, 8h32, c'est Justine Martin qui a déjà son fan club. Là j'ai un petit mot, Justine Martin revient. Ben justement.
Je suis là. Un rappel des titres en commençant par Richard Ferrand, contre lequel
Ah non, j'en peux plus, ma
poutre. Mais c'est normal.
Pas tout le temps les histoires du canard enchaîné, les matchs. Attendez qu'il y ait des procès et tout ça, on va pas tout le temps. Il y a quand même le droit de... Il faut qu'il y ait un procès, qu'il soit condamné. Mais non, on en parle quand il y a eu aussi un procès. Tout ça, ça suffit avec tout ça.
Mais je commence quand même avec
lui. Il y a une présomption d'innocence sur les choses. Les journaux, la presse mondiale ne va pas à truc dès que Canard Enchaîné sort une possibilité. Il y a une présomption d'innocence dans ce pays.
Bon ben, j'en parle pas alors.
Voilà, et on vient d'en parler, Marie-Mi, c'est autre chose.
Donc la grève des camions-citernes, reconduite aujourd'hui, avec le mouvement donc lancé par la CGT vendredi. La CGT qui réclame une amélioration des conditions de travail pour les transporteurs de matières dangereuses. Et dans le reste de l'actualité, en France, Édouard Balladur qui a été mis en examen avant-hier.
Bon,
dans
la limite.
J'ai le droit d'en parler.
Oui, à la limite, oui, parce que
c'est le canard
mais prononcez bien le Balladur, parce que vous commencez par Édouard, et là il y a des soupçons sur moi.
L'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 1995 avec l'argent des rétrocommissions, une décision qu'il a demandé à ses avocats de contester devant la Cour de cassation. Et côté agriculture, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural met en lumière l'amenuisement des terres agricoles françaises attaquées par l'urbanisation. C'est ce qu'a révélé hier la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc, ces terres agricoles sont de plus en plus prises d'assaut par les zones pavillonnaires, les routes ou encore les centres commerciaux. À l'international, la justice brésilienne vient d'autoriser l'interrogatoire du président Michel Temer afin qu'il puisse être interrogé dans le cadre des enquêtes de corruption le visant. Le juge à l'origine de cette décision a ordonné que l'interrogatoire soit effectué par écrit. Michel Temer aura 24 heures pour répondre.
On aurait eu 3 affaires, Balladur, Temer, Ferrand. On ne peut pas faire juste l'actualité, c'est pas juste 3 mecs qui étaient au pouvoir
Mais il ne faudrait pas en parler ?
Mais non, mais si, mais il faut mélanger à d'autres choses qui nous concernent plus personnellement, de savoir que des hommes publics et politiques, éventuellement, à certains moments de leur vie, ont fait des choses. Moi, il y a d'autres choses dans ma vie quotidienne qui m'intéresseraient plus, mais ce n'est pas de votre faute, Justine. J'ai adoré, par exemple, sur l'émiettement des zones pavillonnaires dans les zones rurales, ça m'intéresse beaucoup.
D'accord.
Vous êtes formidable. Et moi, je suis odieux. Je vais m'auto-punir.
Vous êtes baladurisé, monsieur Edouard.
Pardon, Justine.
Et donc les États-Unis ont commencé à livrer des armes aux combattants kurdes en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense hier. Il s'agit plus précisément des unités de protection du peuple kurde, des milices affiliées selon le gouvernement turc au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, classé terroriste par Ankara. Et puis la météo pour aujourd'hui, un temps calme mais nuageux au nord et très orageux dans le sud. Les températures minimales vont de 10 à 16 degrés du nord au sud. Les maximales varient entre 20 et 24 degrés près de la Manche et du Massif central aux Pyrénées.
Merci de votre patience, Justine Martin. Pendant ce temps-là, ça inspire Atmen à un mash-up. Il m'a fait Marion Maréchal plus Richard Ferrand. Il a dessiné un Maréchal Ferrand. Bah vous êtes très en forme, mon vieux.
Bah, j'essaie.
Tout de suite, on retrouve Jack souvent à Palais Royal qui est toujours sur le tournage de
On est sur les colonnes du Rennes, c'est le soleil est magnifique, il y a des ombres, lumière. Je suis avec Yong Chin, qui est le producteur du clip. Il y a ces trois chanteuses qui sont en bleu clair, rose, très rose
comme
pâle
souvent,
et blanc.
Ouais, comme souvent.
Et avec des petits chapeaux sur la tête qui rappellent Fred Astaire. Et c'est assez chouette l'ambiance ici. Yong Chin, bonjour.
Bonjour.
Yong Chin, bonjour monsieur. Donc là, le tournage du clip va commencer ce matin sur les colonnes de Buren. Quel est ce groupe ? Racontez-nous un peu ce groupe.
Ouais, en fait, nous,
Barbet.
Votre production du Kaoka va clipper pour une chanteuse, Barbet, les trois filles coréennes. qui va chanter les Summer Love.
Des Summer Love, donc des chansons d'amour d'été. Le choix de Paris, c'est parce que vous associez le Paris à l'île, et c'est encore la capitale de l'amour ?
Oui, bien sûr, c'est la capitale de l'amour et la capitale de la jazz, toutes les cultures, c'est la raison qu'on vient ici.
Est-ce que quand vous êtes à Paris, vous avez envie de faire l'amour ?
Ouais, bien sûr, pourquoi pas.
Bien sûr. Est-ce que vous venez avec la personne qui vous accompagne dans la vie ? Est-ce que c'est un amour en dehors des règles habituelles et peut-être des lois sacrées du mariage ? Peut-être que c'est une parenthèse enchantée ?
C'est la vie personnelle.
La vie personnelle, je comprends bien ce que vous cherchez à me dire.
Est-ce que vous nous présentez les chanteuses, peut-être ?
Ouais, la Babrette, ça fait pendant 5 ans, il commence de chanter une sorte de jazz. En Corée, il vient de faire la musique anglaise. Et c'est la première fois qu'il vient.
C'est la première fois qu'elles sont là. Vous pouvez nous les passer ? Elles disent quelques mots en français ou en anglais ?
Surtout en coréen.
Ah, mais on va leur parler, moi, je pratique, oui.
Ah, voilà, attention. Moi, le
airplane, ça va bien. Est-ce que vous pouvez présenter pour les citoyens parisiens en coréen, s'il vous plaît ?
Bonjour.
Un, deux, trois. 안녕하세요, 버버렛입니다. Nous sommes les Babourettes from Korea. Hello.
Vous êtes formidable. Je viens d'acheter.
We are three girls from South Korea. We do the doo-wop, 1950s doo-wop inspired originals. And we are here in Paris to shoot the music video for our new single.
Un très joli français. Donc oui, vous venez enregistrer
avec la traduction d'Edouard Baird, oui.
Votre disque ici, 3 Sud-Coréennes, première arrivée à Paris. Quelles impressions ? Which impression ?
Alors attendez, on va passer le casque parce que
oui. Ouais, à l'anglais. Alors les Rubettes, les Barbrettes, ou quelles sont les premières impressions que vous avez à Paris ? What are your first impressions ?
Ah, attendez, il y a une histoire de partage de casque. Non, ça y est, c'est bon. Le casque est sur la chanteuse.
Fais-moi l'étrange plus fine, choisie.
La chemise blanche.
Ne défais pas les costumes, les maquillages. Peut-être si le tournage sud-coréen va être tourné là, ou what is the general atmosphere ? You like Paris ? You are happy or you are disappointed ? Elles sont déçues ou elles sont contentes ?
Yes, we love Paris. It's our actually third time coming here, and actually we played last week in Paris as well.
Tout à fait
so
gentil.
Whenever we come to Paris, we feel very artistic and
c'est
very
très
inspired.
Artistique, bien sûr, Paris, la Tour Eiffel, bien sûr, l'Arc de Triomphe, my living room, le salon de chez moi. Et bon, bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite un très bon tournage de clip. We hope you very very good clip tourning, en tout cas. Et c'était très exotique et poétique de vous avoir là sur les colonnes de Buren ce matin. Paris.
Peut-être une petite dernière en coréen.
Oui.
Pour sortir, pour quitter le.
Oui, bien sûr. Allons-y.
En coréen.
Allons-y. Bien entendu.
Hangumal.
Oui, Hangumal.
Bien sûr.
Ah, allez là. C'est allez là. Summer love,
Uri들의 사랑. Merci beaucoup.
Ouais.
Dans le Séoul, Paris de 12h34, elles sont trois. Elles n'attendent rien, elles espèrent tout. Paris, capitale de l'amour, grimper sur la Tour Eiffel comme on court un premier rendez-vous. Se réchauffer à la flamme du soldat inconnu comme un sentiment nouveau. Voir le soleil se lever sur les berges de la Seine, pêcher un poisson et au milieu du poisson trouver la fève. Grâce à la fève, avoir la couronne et être la reine de Paris. Oh, oh, bienvenue jeune coréenne, bienvenue à toi séoulienne, bienvenue sois là, danse dans les rues, monte sur le toit de l'opéra, va parcourir le marché aux puces et acheter quelques antiquités. Balade-toi, chante, danse, juge-toi sur les colonnes de Buren, rayées comme des zèbres et heureuses et grandes comme des tours pointées vers l'avenir. Paris-Séoul, c'est l'avenir.
7h-9h, plus près de toi.
C'est bon ?
Plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les tomates aujourd'hui, Jean-Baptiste Mallet ?
Beaucoup de choses. Moi, j'ai longtemps enquêté sur la tomate d'industrie. C'est une tomate qu'on ne voit jamais, qui pousse parfois très loin, parfois aux confins de la Chine, dans le Xinjiang. Et on en mange quand on verse une giclée de ketchup ou qu'on mord dans une pizza On ne sait pas parfois qu'on mange chinois.
Jean-Baptiste Mallet est l'auteur de L'Empire de l'or rouge, une enquête mondiale sur la tomate d'industrie chez Fayard. Alors, déjà sur les tomates, on a plein d'inquiétudes. On connaît toutes les tomates qui poussent hors sol, les tomates qui sont sous les serres d'Andalousie, vers Almeria, là-bas, qui poussent dans des tout petits morceaux de coton imbibés de produits. Mais là, c'est encore une autre sorte de tomate plus mystérieuse qui sert principalement pour les concentrer.
La tomate d'industrie, c'est un quart de la production mondiale. Elle se fait essentiellement en Californie, en Chine et en Italie. C'est la moitié de la production mondiale. Et donc, en fait, ces tomates, elles poussent l'été, en général dans des champs. Elles sont ramassées soit par des machines en Californie, soit quand on est au fin fond de la Chine, par des gens misérables, parfois des enfants, parfois même des prisonniers, parce qu'il y a beaucoup encore de camps de travail en Chine. C'est également le cas dans le sud de l'Italie, où c'est souvent des migrants qui ramassent les tomates pelées qu'on a dans des boîtes. Et ensuite, ces tomates, elles sont transformées en usine, transformées dans des grands barils de concentré de 230 kg. Et ces barils chinois, ils sont exportés dans les grandes usines européennes, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, où là, on produit ketchup, ratatouille, etc.
Alors, c'est passionnant, votre livre, parce qu'il y a quelques temps, on avait vu aussi la route de la viande, quand il y avait eu le scandale chez Spranghero à l'époque, des viandes de cheval qui transitaient par plusieurs pays avant d'arriver. Et là, sur la tomate, on a l'impression que c'est pareil. Donc ça, c'est une tomate qu'on ne voit jamais complète, qu'on ne voit que sous forme de concentré. Quel est le chemin, quelle est l'histoire industrielle de cette tomate ?
Alors en fait, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a un siècle, on était très peu à manger de la tomate d'industrie. Aujourd'hui, toute l'humanité en mange. En moyenne, 5 kilos par an, tous les terriens en consomment, y compris les gens les plus pauvres. Hein. En Afrique de l'Ouest, on peut vivre avec moins d'un dollar par jour et acheter au marché, à la cuillère, j'ai vu ça au Ghana, du concentré de tomate. En Afrique de l'Ouest, c'est un désastre parce que c'est les Chinois maintenant qui ont battu les Italiens sur ce marché et donc ils inondent le marché d'Afrique de l'Ouest avec des boîtes coupées, avec des additifs, de la fibre de soja, de l'amidon, des colorants rouges parfois. Quand la pâte est périmée, ils la recolorent en rouge. Alors ça ne touche pas le marché européen, mais c'est un vrai problème de santé maintenant en Afrique.
Alors vous dites tomate industrielle par opposition à tomate agricole, ça veut dire quoi sur sa façon de grandir et de devenir une tomate adulte ?
En fait, c'est des tomates qui sont inventées par des généticiens, le plus souvent en Californie. Je suis allé à Davis aussi pour mon livre, rencontrer les plus grands généticiens de la tomate. C'est une tomate qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en supermarché. Elle a la peau beaucoup plus épaisse. Elle croustille quand on en mange. C'est assez saisissant les premières fois.
C'est bon à croquer ou pas ?
C'est pas très bon. Alors, je déconseille à tout le monde d'en manger. Et en fait, elle est optimisée pour sa transformation en usine et surtout pour son transport dans les bennes. C'est-à-dire que même celle qui est tout au fond de la benne, écrasée par des centaines de kilos de tomates, ne va pas éclater. On peut jouer aux boules avec sans problème. Et c'est une tomate assez effrayante qui est totalement dédiée à la transformation industrielle.
Ne dites pas ça, Ahmed Khalif, qui est un champion de pétanque. Donc cette tomate-là, elle est faite pour être un coulis, pour être une sauce, et elle inonde le marché mondial. Quel est son chemin ? Donc elle pousse principalement. D'hectares dans le monde à peu près ?
La Chine est le premier exportateur mondial de concentré de tomates. Et ce que j'ai découvert, en fait. Ce qui m'a demandé le plus de travail dans mon enquête, c'est de comprendre comment la Chine est devenue le premier exportateur mondial. Et j'ai compris qu'en fait, des industriels italiens, notamment des gens dans le sud de l'Italie, le napolitain Antonino Russo, qui est un personnage assez sulfureux, qui a été condamné notamment pour trafic de concentrés chinois, les Italiens sont allés édifier la filière chinoise, en fait, ont installé là-bas des dizaines et des dizaines d'usines extrêmement onéreuses. Et en fait, une fois que la Chine est devenue le premier producteur mondial de concentrés à l'aube des années 2000, beaucoup de se concentrer partaient ensuite à Naples et à Salerne, où il était réembouteillé aux couleurs de l'Italie, alors qu'en fait, il s'agissait de concentrés chinois. Et là, aujourd'hui, j'ai apporté une petite boîte dans le studio qui, en fait, est une boîte sur laquelle on trouve un drapeau de l'Italie, alors qu'en réalité, la marque en question est un très, très gros importateur de produits chinois.
Alors, il y a eu un décret aussi qui expliquait que l'Italie avait interdit maintenant cette importation ces barils qui sont envoyés comme des barils de pétrole sont maintenant en France et se baladent, où il n'y a pas encore eu de loi pour interdire cette importation.
Alors en fait, c'est sur ce qu'ils appellent la passata, qui est un peu notre coulis. En Italie, maintenant, on ne peut plus produire de passata s'il n'y a pas 100% de tomates italiennes. En fait, on peut les produire, mais on ne peut pas les commercialiser. Ouais. Donc en fait, comme ils ont encore le droit, les industriels italiens, de commercialiser des passata en dehors de l'Italie, ils exportent. En fait, nous, on peut pas très facilement dans les supermarchés français, acheter une sauce tomate italienne aux couleurs de l'Italie qui n'a d'italienne que le nom et qui en réalité contient du concentré chinois dilué avec de la flotte. Quoi.
Alors en fait, en dehors du fait qu'elle soit chinoise, qui en soi n'est pas pire que si elle était italienne, c'est-à-dire que les règles sont beaucoup plus cool là-bas, c'est un mélange, il y a trop de choses qui n'ont rien à voir avec de la tomate dedans.
Alors c'est surtout déjà en termes de pesticides, il y a des pesticides qui sont autorisés en Chine qui ne sont pas en France, et puis après au niveau des conditions de récolte et de travail, il faut savoir que la partie ouest de la Chine, donc là où je me suis rendu dans le Xinjiang à la frontière avec le Kazakhstan, c'est un endroit qui a été colonisé en 1949 par la Chine et c'est l'armée chinoise qui gère ce business. Moi j'ai commencé cette enquête en découvrant le rachat en France par l'armée chinoise d'une usine de sauce tomate. Donc je trouvais l'histoire complètement folle.
Donc Jean-Baptiste Mallet, vous êtes parti de quoi ? Qu'est-ce qui vous a lancé là-dessus ?
Je suis parti de cette histoire du cabanon là, dans le sud de la France, à Camaret-sur-Aigle, dans le Vaucluse. Je découvre une usine de sauce tomate rachetée par l'armée chinoise et je décide en fait de remonter la filière mondiale. Ça m'a pris 2 ans et demi. Et en fait, en Chine, c'est l'armée chinoise qui a mis en place tout ce business. Et j'ai même rencontré le général Liu, qui est devenu une sorte d'oligarque de la tomate.
C'est formidable. Alors, où est-ce qu'on en trouve de cette tomate ? On en trouve quoi ? Dans plein de pizzas industrielles, dans du ketchup aussi, non ?
Alors, en fait, on en trouve effectivement dans beaucoup, beaucoup de produits industriels. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas, puisqu'en termes d'étiquetage, les normes sont extrêmement laxistes. On ne sait pas, en fait, quand on croque dans une pizza, quand on commande une pizza, d'où vient la tomate. Il faudrait, en fait, que politiquement, des lois plus contraignantes soient votées pour qu'on puisse savoir enfin ce qu'on mange.
Quand on suit un produit comme ça, c'est comme il y a l'histoire du coton par Eric Orsenna, c'est une histoire du monde un peu aussi, c'est une histoire générale de la politique, de la modernité, de l'industrie, des mafias aussi qu'on découvre.
Oui, complètement. On est plongé dans les évolutions. Il y a 2 siècles de capitalisme concentré dans une boîte de tomates, en fait. Y compris, il y a un chapitre de mon livre qui est consacré à l'histoire de Heinz. Heinz, c'est une histoire fascinante parce qu'avant Ford, ils avaient déjà des chaînes de montage, déjà du taylorisme. Et en fait, on ne le sait pas, mais la Heinz Company, c'est vraiment la première grande multinationale de l'histoire des États-Unis. Donc on peut raconter l'économie avec le ketchup, en fait.
C'est formidable, c'est vraiment passionnant. Lisez « L'Empire de l'or rouge » de Jean-Baptiste Mallet chez Fayard. Les secrets d'ailleurs.
Et puis surtout, il y a aussi une mauvaise éducation du palais, des jeunes palais qui ne savent pas du tout ce que c'est que la tomate et qui sont, dès leur jeune âge, éduqués à ce coulis-là, qui ne donnent pas le vrai goût des choses et les gens ne sont pas... Parce que par rapport à Heinz, par rapport à Buitoni ou je donne des marques comme ça, c'est vraiment pas de la tomate et on leur vend de la tomate aux jeunes enfants. C'est pour ça.
Disons que cette tomate, elle est, c'est une tomate d'un point de vue des botanistes. Hein, elle a tout, elle est rouge, elle pousse dans la terre, etc. Mais effectivement, quand on la compare à ce qu'a pu être une bonne tomate d'une variété ancienne, en termes de qualité nutritive, on n'a pas du tout la même chose. Oui. C'est plutôt
merci
un ersatz de tomate.
À vous, merci beaucoup. Exactement. Merci Jean-Baptiste Mallet.
Merci beaucoup.
L'Empire de l'or rouge.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Il y a des sujets comme ça qui peuvent frapper, qui peuvent choquer le jeune public. Et Ammoniacal, qui est là tous les mercredis, peut-être qu'il n'était pas prêt à entendre un petit peu ça.
Non, moi, j'étais pas trop prêt à entendre ce genre d'événement où des tomates qui ont été fortifiées et qui on n'arrive pas à écraser.
Ammoniacal, pour les gens qui écouteraient l'émission pour la première et sans doute la dernière fois, on peut peut-être te représenter.
Je suis moitié pingouin. Moitié homme, moitié chiffon.
Eh oui, ça te fait une apparence qui n'est pas celle de Monsieur Tout-le-Monde.
Non.
Donc tu as toujours de la place dans le métro, tu me dis.
J'ai toujours de la place dans le métro, mais malgré ma différence, je trouve que j'ai quand même beaucoup de volonté parce que j'ai un emploi à la radio.
Oui, tu as un emploi qui est rémunéré, qui tu es assujetti à un impôt, qui fait toi un citoyen, tu te sens.
Non, parce que comme j'ai pas... de carte d'identité, j'ai juste des taxes de
ton petit générique.
Mignon, 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 ammoniacal.
Ammoniacal, juste avant le live. Live se prépare en ce moment dans le Café Nova, le Grand Peter Van Poel. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs qui ont tenu jusqu'à 8h52?
Non, juste pour dire que quand même, ma vie est, même si j'ai un emploi bien rémunéré, j'ai quand même des difficultés à me rendre sur mon lieu de travail parce que j'ai mes jambes qui font moins de 3 cm. Ce qui fait que je parcours 1 mètre en 1 heure. Et comme j'habite dans la forêt merveilleuse, et pour venir à l'émission le mercredi, je suis obligé de partir 3 jours avant. Et le temps de revenir chez moi...
C'est déjà la fin de la vie.
J'ai juste le temps de sortir les poubelles. Et je suis obligé de repartir.
Tu n'as pas d'autres amis dans la forêt imaginaire ou la forêt merveilleuse qui peuvent t'emmener?
Ben, si, il y a bien des condors, mais le problème des condors dans la forêt merveilleuse, c'est que les arbres sont trop tassées, alors elles se déchirent les ailes et donc elles sont bourrées de tendinite. Et bon.
Ou un petit rongeur malin qui peut t'emmener sur son petit dos.
Oui, il y a bien tic-tic. Le toucan bègue.
Qui sent pas très bon de la bouche.
Non, qui sent pas très bon de la bouche, qui peut m'emmener sur son dos. Mais bon, je le connais pas bien. Il faudrait qu'on organise peut-être une surprise partie.
Oui. Qu'est-ce que tu voudrais souhaiter pour cette journée à tous les auditeurs de l'émission?
Joyeux Noël.
Oui.
Joyeux Noël à tout le monde.
Mais oui, bien sûr.
Et que tout le monde ait des cadeaux. Tout le monde est sage. Que tout le monde soit sage.
Tout le monde soit bien sage. Tu l'as rencontré, le Père Noël, toi?
Oui, plusieurs fois. Je suis allé en Norvège.
Le mec est bien.
Il est sympa, mais un peu taciturne.
On met droit dans ses bottes, quand même.
Oui, droit dans ses bottes, mais un peu taciturne. Ouais.
Merci, Ammoniacal. Bon, tu viens écouter le live de Peter Van Poel à côté?
Non, j'aime pas, mais oui. Si, j'ai écouté tout à l'heure et c'est vraiment très agréable à entendre.
Bien sûr. Et à manger.
C'est comme
aussi.
Un champ de sauce tomate.
Oui, gros béco.
Bisous. Ne touche pas.
Pardon. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Peter est en train de se préparer avec son pianiste. Comment s'appelle son pianiste? Peter, comment s'appelle ton pianiste?
Guillaume Lantonnet.
Tu vis dans combien de pays, Peter?
J'ai l'impression que je vis idéalement dans un pays imaginaire.
Dans un pays imaginaire. Est-ce que c'est très différent quand tu vas chanter dans des pays nordiques, en Allemagne ou en France? Tu sens des vraies différences?
En Suède, comme il fait généralement froid, du coup, c'est un peu, avec la neige, c'est un son assez étouffé. C'est très agréable, une acoustique très agréable.
On te réinvitera sous la verrière en plein mois de décembre, Peter, tu verras.
Merci beaucoup.
Il y a un climat suédois sous cette verrière.
Et maintenant, l'éloge de Peter Van Poel par le grand Rudy.
Du live de Chassel hier à Peter Van Poel aujourd'hui, il n'y a qu'un pas. Et oui, si nous remontions le temps, pas si loin dans les années 2000, c'est au sein du même label Défenseur de musique de qualité que ces deux artistes ont commencé, à savoir Tricatel, la maison de Bertrand Burgala. Depuis, le discret guitariste, claviériste, auteur, compositeur et chanteur suédois a tracé sa route, une route sur laquelle, on en parlait tout à l'heure avec Peter, Nova l'a croisée à ses tout débuts en 2006 avec le titre devenu un classique de cette antenne, Going Where the Tea Trees Are. Au fur et à mesure des années, on ne compte plus le nombre de collaborations de Peter Van Poel, que ce soit pour Chamfort, Marie Modiano, Welbeck, Birdie Nam Nam et bien d'autres, aussi pour mettre en musique les images des réalisateurs de cinéma. Mais nous, ce que l'on aime le plus, c'est quand nous retrouvons Peter de retour en solo, en propre maître à composer, et que sa voix douce, cristalline, qui se balade avec une aisance rare en apesanteur dans les aigus, se rappelle à notre oui. Et ils sont bien là, Peter, sa voix, ses douces mélodies mélancoliques, son ami Guillaume Lantonnet au piano, de retour avec un quatrième album qui s'intitule Sympathetic Magic. Je crois que c'est de la magie basée sur l'imitation, c'est un rapport au vaudou.
Ah bon ? C'est vrai ?
Ah bon?
Avec le découvre en même temps, non, c'est le génie de Rudy.
Un titre un peu facile, la musique, comment dire, par principe, c'est une magie par sympathie, ou, sympathie comme résonance, donc je d'accord, c'est un titre un peu facile.
En fait, d'ailleurs, c'est formidable parce que tu parlais de sympathique et facile. Tu as, pour des gens qui ne te connaîtraient pas, qui tendraient à la radio, tu as l'air d'un Karl Lagerfeld jeune et sympathique à l'oreille quand tu parles, pas quand tu chantes.
Et voilà, et un album que tu présentes à la fois sur scène, comme tu le défendras le 7 juin prochain au Café de la Danse, mais aussi que tu mets en scène au théâtre, chorégraphié en danse avec Ella Fatoumi et Eric Lamoureux.
Ça en est où ce spectacle-là alors ?
Et on joue, le prochain c'est à Saint-Brieuc, le festival Art Rock, cet week-end.
Ah oui, et là vous étiez au 104 en résidence à un moment ?
Et oui.
Ça a été bien ?
C'était très bien.
Ça devait être très étonnant.
Et il est aussi à Metz en concert tout à l'heure sur les coups de 16-17h, si je ne dis pas de bêtises.
C'est tout à fait vrai.
Et là, il y a l'énorme limousine de Peter Van Poel qui attend devant aux couleurs de la suite, qui file à Metz. C'est magnifique, c'est toute cette organisation suédoise qu'on a envie teintée de poésie.
Le premier titre s'intitule Inertia. Bienvenue Peter, bienvenue Guillaume, c'est à vous.
Peter Van Poel ici, merci. Et le 7 juin, au Café de la Danse, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir demain.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.